Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal des entrepreneurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, émission en direct. Aussi, vos messages sont bien évidemment toujours les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons évoquer une nouvelle forme de création à la fois d'entreprise, mais aussi de création artistique, qui est celle qui nous concerne évidemment au premier chef à Radio Courtoisie, puisque c'est celle de l'audiovisuel, de la radio, de la télévision, bien entendu à côté des radios d'État dont on parle beaucoup, à des fois peut-être de les écouter, encore qu'ils ont de belles audiences, eh bien il y a tout un écosystème économique autour de la production audiovisuelle en France. Et c'est justement autour de cette production audiovisuelle que nous allons évoquer les sujets de l'entrepreneuriat, surtout que nous avons la chance d'avoir un excellent invité, Marc Bessou. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ça me change, je suis pas dans le même fauteuil que d'habitude.
Voilà, alors on va vous présenter rapidement pour les auditeurs en disant que non seulement vous êtes un homme de radio et de télévision depuis de très nombreuses années, et voilà, les auditeurs qui ont un certain âge et une boîte à images vous auront vu sur le petit écran. Donc vous êtes quelqu'un qui avait à dire sur toute l'histoire audiovisuelle des 20 ou 30 dernières années. Et puis surtout, vous êtes directeur d'émission. De mon temps, on disait patron d'émission.
On dit toujours ça, j'ai l'impression.
À Radio Courtoisie. Donc évidemment, ces deux excellentes raisons de vous inviter. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et je laisse peut-être la parole à Louis si tu veux ajouter quelques mots.
Oui, bonjour à tous les deux. J'ai la chance de connaître Marc depuis longtemps. Je pense qu'il est important qu'il puisse s'exprimer pendant cette heure et demie qui va suivre largement. Il le fait d'ailleurs très facilement et très spontanément. Mais la difficulté que nous aurons au cours de cette émission, ça sera surtout de le concentrer sur un certain nombre de choses, parce qu'il a fait tellement de choses différentes que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Alors je compte sur toi, Hugues, pour m'aider à l'orienter dans la bonne direction.
Ce qui n'est pas, Marc, tu le sais bien, ma qualité première, c'est plutôt toi généralement qui donne le qui est le gardien du déroulement de l'émission grâce au canevas précis que tu nous as fait.
Et justement, comme je suis à distance, j'en profite pour te le redire. Et effectivement, ce qui serait bien, c'est que, en chapeau, Marc puisse nous resituer un petit peu qui il est et sur quoi il intervient. Et puis ensuite, je te laisserai réenchaîner avec les questions classiques que nous posons.
Marc Bessou, on voudrait avoir un petit aperçu de votre parcours personnel dans un premier temps.
Eh bien, au départ, j'étais en CP. Et ça s'est bien passé. Non, plus sérieusement, pourquoi je suis arrivé dans les médias un peu par hasard. J'ai fait un service militaire un peu allongé. J'étais étudiant en droit à Lyon. Voilà, j'aimais beaucoup l'armée. Je me suis posé un petit moment, brièvement, la question de savoir si j'allais y faire carrière, mais aurait été non. Mais j'ai quand même aimé ce passage. C'est un moment important de ma vie. Ça a duré dans la réserve. C'est quelque chose qui a compté pour moi beaucoup. Et puis revenant de ce séjour, donc je rentrant chez moi à Lyon, discutant avec mes parents et mon père s'inquiétant de mon avenir, ce qui est légitime, je me suis posé la question de savoir si j'allais devenir avocat comme lui ou pas. Et ça a correspondu à l'époque des radios locales qui éclosaient, on disait radio libre. Donc une radio se crée à Lyon sans beaucoup d'expérience, mais avec quelques finances, je suis rentré dans cette radio, Radio Scoop, dont au bout d'un an, je suis devenu directeur des programmes. Et ça paraît un peu pompeux, mais c'était quelque chose. Je crois que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie qu'à ce moment-là. Et suite à ça, au bout de 2 ans d'exercice de ça, donc en 86, j'ai rencontré des gens, Pierre Belmar, pour lequel, le compte duquel j'ai fait un casting pour une émission de télévision, sur lequel j'ai été choisi, au miracle. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de la télévision à ce moment-là.
Juste un petit point, une parenthèse. Nous avons la chance d'avoir avec nous, puisque je suis à Lyon, Pierre-Alexandre Bouclet, le président de la radio, qui participe à titre tout à fait exceptionnel, parce que nous sommes ensemble aujourd'hui à l'émission. Donc, soyez honorés l'un et l'autre.
Ah bah.
Alors,
L'émotion Bonjour, président, l'émotion nous étreint et la pression est à son comble.
Ça va aller, je pense.
Bonjour les amis et
merci.
Bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Et Marc,
oui.
Tu es passé très vite de ta naissance au service militaire, mais il y a quand même une période entre les deux au cours de laquelle, probablement, tu as été marqué par un certain nombre de faits familiaux ou à l'extérieur de ta famille, d'initiatives que tu as pu prendre et que tu as retrouvées après dans ta vie professionnelle.
Je ne sais pas très bien vers quoi tu souhaites que je me dirige. Bah, oui, bon. J'ai une vie de jeune homme dans ce milieu que tu connais, lyonnais, une vie agréable, privilégiée, chanceuse. Donc ce que ça a amené en moi peut-être, c'est le culte de l'amitié, la conscience d'avoir de la chance, l'envie et le sentiment très net d'appartenir à un groupe, à un milieu, mais quand même l'envie d'en découvrir d'autres. J'ai voyagé, j'ai fait des films, des choses comme ça après, mais mon père était un avocat et un musicien de très grand talent. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu artistique, ce qui n'est pas toujours le cas dans la bourgeoisie. Or, mes parents, c'était des intellectuels avant toute chose et ils m'ont appris à aimer l'histoire, la littérature, la musique. Donc ça m'a forgé, bien sûr, oui, bien sûr.
Mais quel genre d'enfant étiez-vous ? C'est un petit peu la question qu'on aime bien poser et que Louis aime bien poser. Il a raison pour vraiment un petit peu essayer de comprendre la genèse du parcours et notamment de l'entrepreneur qui souvent se limite au succès que l'on connaît.
Ouais,
et c'est toujours intéressant de voir d'où l'on vient.
Entrepreneur, j'aurais du mal à me définir comme ça. Il se trouve qu'à un moment de ma vie, j'ai créé une entreprise, mais avec le secours et l'aide indispensable de quelqu'un avec qui nous parlons tout à l'heure, Christophe Dindy. Moi, je ne suis pas entrepreneur dans l'âme, j'ai voulu le faire à ce moment-là, ça a été un moment intéressant de ma vie. Quel enfant, difficile à juger, mais je me souviens d'un jour, je me souviens très bien de ça quand même. Je me revois discutant avec ma mère, disant « Mais comment ça va se passer, maman ? Je vais être grand, j'aurai un cartable, j'irai dans des bureaux, parler avec des gens. » Ça me semblait assez difficile comme perspective. Et je lui ai dit « Non, en réalité, je crois qu'il va m'arriver autre chose que ça. » Alors, comme beaucoup d'enfants rêvent de manière un peu puérile de gloire, c'était pas le cas. Mais j'avais quand même la sensation qu'il m'arriverait quelque chose comme ça, que je serais pilote de Formule 1 ou que je serais comédien. Je savais qu'il allait se passer quelque chose d'un peu bizarre, mais je savais pas bien quoi.
D'accord. Et vous aviez des frères et sœurs ?
J'ai une sœur, une grande sœur, oui, que j'aime beaucoup, et qui ne vit plus dans, qui a vécu très longtemps en Calédonie, voilà, et qui elle a une existence plus logique, dirais-je. Donc, surtout pour définir en un mot, je crois avoir été un enfant heureux, oui, un enfant très heureux, chanceux, heureux. J'ai adoré le sport, j'ai vraiment adoré toute ma jeunesse. Je me suis toujours été étonné. Respectueux, mais étonné des gens qui parlent de la difficulté de l'adolescence, de la crise, qu'on se sent à se trouver soi-même, des repères parentaux. Ça m'a toujours paru insensé. Moi, j'ai l'impression d'avoir traversé tout ça avec une gaieté permanente. Voilà. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas, mais c'est comme ça que j'ai vécu.
Non, en tout cas, vous ne ferez pas la fortune des psychanalystes.
Non, ça c'est sûr.
En tout cas, Marc, on le retrouve dans ton style d'animateur. Alors, ce qui serait intéressant aussi pour nos auditeurs, c'est que tu présentes un peu cet immense marché des médias qu'on a du mal à définir et à cerner, marché sur lequel tu as intervenu d'une certaine façon et à une certaine époque aussi, qu'il faut bien repréciser.
Mmh. Eh bien, donc, j'étais animateur de télévision depuis quelques années. Et on est en 92, je crois, et à ce moment-là, de plus en plus d'animateurs essayaient d'avoir une autonomie et de créer des structures de production à travers lesquelles ils vendaient aux chaînes des programmes et diversifiant aussi leur activité en faisant des films institutionnels. C'était une chose qui fonctionnait à l'époque, ou de la pub, ou de l'événementiel. Moi, je n'avais pas tellement la fibre de faire ça, mais mon ami Christophe Dindy, qui lui-même avait une formation et une habitude de l'entreprise, s'est dit « Pourquoi pas faire ça avec ta petite notoriété, ton petit savoir-faire et mon réseau ?» On peut essayer de monter quelque chose comme ça, c'est ce qu'on a fait. On a vendu des programmes de télévision, quelques-uns, ce qui n'est pas facile, mais je crois que ce sera encore plus difficile maintenant. Et on a aussi beaucoup vécu, pendant que moi j'animais des émissions de télévision, on a aussi beaucoup vécu de films institutionnels et de marchés qu'on avait réussi à obtenir, à la fois par le savoir-faire de Christophe et par le fait que j'avais une petite notoriété qui nous donnait une petite carte d'entrée. Donc on a vécu là-dedans, mais nous n'avons jamais réussi, ni d'ailleurs essayé vraiment, d'être une énorme boîte qui vend des programmes aux chaînes à tour de bras. Et ensuite, des contestations à l'époque de la présidentielle Kabbache, je ne sais pas si ça vous parle, on parlait des animateurs de la rue, entre autres, Anna Arthur, enfin, percevant des sommes énormes, ça n'a jamais été notre cas. Nous, l'argent qu'on a touché a été réinvesti dans d'autres activités, on n'a pas été des nababs de l'audiovisuel. Mais on en a vécu pendant une dizaine d'années, une entreprise en se payant régulièrement tous les mois, ce qui n'est pas si mal. On n'a pas déposé les bilans, comme tellement de boîtes le font en très peu de temps. Donc nous avons vécu dans ce milieu-là, un peu particulier, c'est vrai. J'avais la chance d'avoir des relations, il avait un savoir-faire, on s'en est sorti pas trop mal. Et puis ça, après, Christophe a voulu passer à autre chose et je suis revenu à ma liberté initiale.
J'aimerais, Marc, peut-être que l'on revienne quand même un petit peu sur votre parcours, car dans le canevas présenté par Louis, c'est assez bien précisé. Au moment où vous quittez justement l'armée, qu'est-ce que vous faites concrètement ?
Ah ben je reviens donc à Lyon et je m'interroge, comme beaucoup de jeunes gens, et en plus de jeunes gens un peu poético-romantiques, comme je me qualifierais, donc avec peu d'appétence directement pour les métiers normaux. Donc je me serais bien vu, c'est pour ça, je me serais vu mousquetaire, mais ça n'existait plus vraiment de mon temps.
Prêtre, sorcière, mousquetaire, voilà des métiers à réhabiliter.
Absolument. On peut créer une école tardivement. Donc je savais que je ne ferais pas ça. Les médias m'intéressaient, je m'intéressais à l'actualité, je m'intéressais aussi paradoxalement à des choses légères. Je m'intéressais à la chanson, au cinéma, à l'histoire aussi, enfin toutes sortes de choses
femmes.
Un peu différentes. Pas facile à... Pardon ?
Non, je disais aux femmes.
Enfin, je vous en prie. Et donc, difficile à canaliser, mais quand même, cette chance que j'ai eue de rencontrer ces gens... j'ai fait un petit stage à RTL, mais grotesque, de 15 jours où je versais des cafés aux correspondants de RTL à Lyon. Et quand la radio locale dont je vous ai parlé, Radio Scoop, s'est montée, je suis allé les voir en me targuant d'être à RTL, où je versais des cafés depuis 15 jours. Et comme à l'époque, on n'était pas regardant sur qui fait quoi, c'était vraiment les débuts, j'ai animé la première émission de cette radio, qui est devenue une radio assez mythique dans la région et même dans la France entière, et ça a été le début. Je ne savais pas que ça allait durer si longtemps.
Et donc ensuite,
quoi, cette première émission ?
Oh, mais c'était très... L'émission elle-même, je ne saurais pas vous le dire. Ça faisait un mois ou deux mois qu'il y avait des publicités qui tournaient sur la fréquence. Dans un mois, Radio Scoop. Dans 15 jours, Radio Scoop. Et le jour du début, on est tous réunis, c'est un souvenir assez drôle, nous étions tous ensemble, les 7 ou 8 animateurs recrutés, tous néophytes, et un professionnel, le seul. Et c'est lui qui devait donc prendre la parole le premier et dire « Bonjour, Radio Scoop démarre aujourd'hui ». Et je ne sais pas pourquoi, le pauvre, il a eu une espèce de une crise de panique. Donc il ouvre le micro, paf, paf, et oh, il ne peut pas parler. Une fois, deux fois, ah, il ne peut pas parler. Donc le patron de la radio, financier, me dit « Bon, comment on va faire ? Allez, Marc, vas-y, toi ». Ah bonjour, et donc voilà. Et c'est la première fois, donc ça m'a vacciné contre le trac, une première fois et une deuxième fois. Quand j'ai commencé à la télévision, on en parlera peut-être plus tard, expérience à mourir de rire, qui m'a vacciné à tout jamais contre le trac. Donc j'avais la chance d'être un peu inconscient par nature, donc jamais eu tellement peur des médias.
Alors c'était en quelle année, Marc, cette...
Radio Scoop ?
Oui.
83.
83, parce que vous savez que Radio Courtoisie a été créée en 1987, donc vous connaissiez en 1987 l'existence de Radio Courtoisie ?
Non, je ne pense pas. Je l'ai connue plus tard, parce que j'habitais à Lyon, et à l'époque, je ne pense pas que Courtoisie circulait jusqu'à Lyon. Donc je l'ai connue un peu plus tard, quand je suis arrivé à Paris dans les années 90, et je me souviens d'ailleurs qu'avec Christophe, nous l'écoutions parfois en voiture, en trouvant que c'était parfois un petit peu long. Voilà.
Un peu compassé, c'est ça ?
Un tout petit peu, oui. Bon, bonjour.
Vous êtes d'accord quand même que à la fois la diversité maintenant des patrons d'émission et aussi l'effort que nous faisons chacun d'entre nous a peut-être un petit peu atténué ce défaut.
Largement. Très, non, mais je vous parle de ça. À une époque, on était tous un peu néophytes.
On est écoutés par le président.
Antédiluvienne. Oui, il ne l'était pas à l'époque. Mais j'écoutais Radio Courtoisie parfois dans la voiture. Justement avec Christophe, d'ailleurs, ça nous est arrivé souvent. À la fois parce qu'il s'y disait des choses qui nous intéressaient, qui étaient assez proches de notre sensibilité. Et aussi, c'est vrai, parce qu'on trouvait, j'ai le droit de le dire, un côté un peu amateur qui nous faisait un peu sourire, mais il y a longtemps.
Mais alors, vous avez raison, Marc, mais tout le monde était un petit peu amateur. Et j'en veux pour preuve que cet amateurisme n'a pas été perçu comme tel, à mon avis, par le public. Car lors de certaines émissions de Radio Courtoisie, il y a une sorte de bobino que j'adore, où on fait passer un court extrait des Inconnus.
Ah, très bien.
Et dans ce court extrait des Inconnus, il parle de Radio Courtoisie.
Non.
Oui, pour s'en moquer, bien évidemment, mais s'en moquer avec bienveillance. Et les Inconnus ont fait un sketch. Et je suis sûr que Pierre-Alexandre sait de quoi je parle, parce que je pense qu'il a donné son accord à cet extrait et peut-être qu'on a obtenu les droits. Les Inconnus ont fait des sketchs sur absolument tout.
Je me souviens,
Et ils ont fait un sketch sur les radios libres.
Oui, je m'en souviens très bien.
Je pense que le sketch des années 90, donc au début de Radio Courtoisie, et ils parlaient de toutes les radios, et ils parlaient de Radio Courtoisie, ce qui montre que déjà à l'époque, il y avait une reconnaissance. Alors oui, ils s'en moquent.
Je vous salue.
Alors oui, ils s'en moquent parce que justement, ils font parler deux grincheux qui disent qu'il ne faut pas massacrer tout le monde, mais qu'en tout cas, il faut le dire avec courtoisie. Mais avec une bienveillance qui montrait que là aussi, les inconnus avaient cette distance vis-à-vis des sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'ils seraient tout à fait à gauche. Voilà, ils ne nous le diront peut-être pas.
On n'a pas le droit de prononcer ce
sujet. Marc Bessou, comment continue cette aventure radiophonique ?
Alors, radiophonique.
Alors, juste, Marc, j'aimerais bien que tu nous contes la deuxième anecdote à mourir de rire contre le stress, parce qu'on va l'oublier.
Non, je l'avais noté, Louis.
Donc, je vais répondre aux deux questions à la fois avec un sens de la synthèse qui me caractérise. Donc, dans un premier temps, donc 3 ans dans cette radio, 1 an comme animateur simple, puis après devenu directeur des programmes, ça paraît pompeux. Mais c'était du boulot quand même. Et puis après, donc, ce casting où je suis engagé par Pierre Belmar, après un simple casting qui se déroulait chez lui, un pré-casting. Et voilà, et il me propose de venir en septembre, donc le rejoindre. Les choses étaient plus simples qu'aujourd'hui, parce que je me suis contenté de faire un casting chez lui, filmé à la va comme je te pousse avec un petit caméscope. Et qui est allé après voir la chaîne France 3 en disant bon, voici ce jeune homme de 26 ans qui va faire l'émission le samedi en direct à 19h. Ah bon, bravo, bonne chance monsieur. Maintenant, il faut être sûr de plaire à un panel, à la ménagère de tel âge, à telle communauté. C'est très compliqué, j'ai vécu les différentes époques. Mais à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça m'a d'ailleurs un peu déformé parce que je pensais que ça serait facile tout le temps, mais ça ne l'est pas. Et donc, l'anecdote en question pour répondre à Louis, c'est que donc j'arrive, Pierre Belmar me dit bah alors venez le 15 juin. Jour de la dernière émission de télévision qu'il enregistrait dans les studios qui étaient à Europe 1, François 1er, il y avait un studio de télé, et on profitera de la technique pour enregistrer votre bande-annonce pour l'émission. Oui, je pense que vous savez ce que c'est qu'une bande-annonce, on explique telle émission, telle heure, etc. Donc j'arrive avec mon petit costume beige, tout content, et il y avait une fête de fin d'année, dans laquelle il y avait le banc et l'arrière-banc de gens de médias que moi, téléspectateur, je connaissais. Patrick Sabatier, Drucker, François-Henri de Virieux, de gens de l'époque, enfin, des stars qui étaient venus faire cette petite fête avec Belmar. Et du coup, il m'oublie. Et brusquement, il me voit, il marque. Oh, la bande-annonce. Il rappelle la technique, je ne savais pas comment ça marchait, comme ici à Courtoisie, le studio derrière, on ne les voyait pas. Et il demande, est-ce qu'il y a encore du temps de régie ? J'entends, oui, il reste 5 minutes. On me dit, asseyez-vous sur la scène. Et à ce moment-là, Belmar se tourne vers l'aéropage des 150 personnes en train de boire du champagne. Et il leur dit, faites silence, je vous prie. Le jeune Marc Bessou va enregistrer une bande-annonce. Moi, je pensais qu'on aurait l'après-midi et qu'on serait tous les deux. Mais non, j'étais seul devant 150 personnes qui sont tous des stars des médias, que j'admirais et que je connaissais, et je n'avais rien préparé. Et on me dit, vous avez donné le texte au prompteur ? Le texte ? Quel texte ? Le prompteur ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne connaissais rien. J'entends la voix du technicien qui me dit, dévisse-toi un peu, c'est-à-dire tourne-toi à gauche. Et Belmar me dit, allez, vous avez 30 secondes. Mais rien n'était prêt. Et les gens, avec les coupes de champagne, ils me disent, allez, vas-y, fais-nous rire, éblouis-nous. Donc je fais ça sans savoir comment je fais, j'entends la voix sépulcrale, elle est bonne. On en refait une deuxième. Ça se passe bien, et après je traversais la foule, la mer rouge souvent devant moi, et Belmar disant, c'est Marc Bessou, moi je serrais les mains des gens, c'est bien. Donc ça ne pouvait pas être pire comme début, et ça s'est bien passé.
Mais voilà. Car qu'est-ce que vous avez raconté en 30 secondes ?
Oula, je ne sais plus, retrouvez-moi en septembre, un truc non plus génial, mais il fallait que ça fasse 30 secondes, c'est pas si simple. Normalement ça se prépare, ça se calibre. Le regard caméra, le sourire plus ou moins factice, le texte, le contenu, on ne m'avait rien appris, je me suis débrouillé tout seul, j'ai eu de la chance.
1h30 à Radio Courtoisie, c'est court, mais 30 secondes sur les médias classiques, c'est long.
C'est vrai. Surtout, je dis, sous le regard de ces gens, que je me dis, il ne faut pas que je regarde qui est en train de me regarder en ricanant. Regarde le petit, là. Donc, ça s'est bien passé. Effectivement, comme je le disais au début à Louis, c'était tellement complexe comme début que ça m'a vacciné. Donc, je n'ai plus jamais eu le trac.
En tout cas, là, vous n'avez pas le trac, ça se voit tout à fait. Alors, continuons en effet sur ce parcours. Comment évolue donc cette première émission sur cette radio lyonnaise ?
Ah, on est revenu à la radio.
C'était juste pour l'anecdote.
Ah, pardon. Écoutez, la radio, rien à voir avec Radio Courtoisie. Ça avait moins d'ambition. C'était une radio de jeunes, une radio musicale, où les 3/4 du temps, c'était de la musique. En revanche, mais même quand on fait une radio musicale, ce qu'on diffuse a un sens. Radio Nostalgie ne diffuse pas la même chose que Skyrock, par exemple. Voilà, donc il se passe des choses différentes sur les radios. Donc choisir les invités, choisir les programmes, s'occuper à la fois, on avait 23, 24, 25 ans, des gens de notre génération de manière gaie, mais si possible, c'était mon credo, pas abrutissante, mais je pense qu'on a réussi.
Et alors ensuite, comment ça s'est terminé?
Ah ben ça s'est terminé parce que je suis donc parti, répondant à la sollicitation de Bellemare, qui me proposait de venir animer une émission de télévision. Quel genre d'anormal aurais-je été de refuser? Donc c'était formidable la radio, j'ai adoré ça, c'était ma ville. Mais voilà, c'était une formation et je suis arrivé à Paris, Rastignac, quoi. Après 3 ans de radio, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance.
Et ensuite, comment s'est déroulée votre carrière justement à la télévision pour nos auditeurs?
Eh bien après, pour résumer, donc j'ai fait cette émission qui s'appelait, je crois, Documents secrets sur France 3. J'en ai fait une autre qui s'appelait Génie en herbe. Tout ça produit par Bellemare. Ensuite, je me suis séparé. Enfin, nous sommes séparés tout à fait bien, mais les circonstances ont fait que. Il a monté à l'époque le téléachat. Bon, c'était pas mon rayon, donc on a fait autre chose. Et puis, j'ai fait une grosse émission l'été qui s'appelait 40 degrés à l'ombre, qui était une émission de variété, mais qui durait toute l'après-midi, qui a marqué les générations d'adolescents de l'époque. La chose folle, et vous allez voir comme tout se rejoint, c'est que la personne qui co-animait l'émission avec moi, c'est une amie, je la connaissais avant, Caroline Tresca, et qui est d'ailleurs la sœur, j'y pense maintenant, de Christophe Dardy, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Donc j'ai fait ça, j'ai fait après l'après-midi sur la 2 pendant 2 ans, ça s'appelait C'est en commun l'après-midi. J'ai fait le début d'une émission qui s'appelait Faut pas rêver, qui existe encore, émission de voyage, dont j'ai été renvoyé assez brutalement, comme souvent. Et puis j'ai fait aussi une émission sur la 5 italienne, qu'on a oubliée, 92,
et Berlusconi.
Berlusconi, les animateurs étaient tous là, surpayés, mais il fallait dire n'importe quoi, c'était insupportable, j'ai des souvenirs terribles. Il me disait, tu vas dire 5 you, la 5, en montrant tes doigts. J'ai dit, non, je ne vais pas faire ça. Si, vous voyez le jeu de mots, 5 you, c'est une pauvreté. Mais non, je ne peux pas le faire. Alors ils étaient là, on va voir si tu ne le fais pas. Ben non, je ne le fais pas. Et donc ça n'a pas duré très longtemps.
Tout est viré.
Tout est viré rapidement. Et donc voilà, j'ai fait ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai fait une émission à midi qui s'appelait Démons de midi, qui était un petit talk show un peu rigolo à midi sur la 2. Et ensuite, comme je me suis un peu fâché avec les gens des chaînes, peut-être de ma faute, admettons-le, donc ma carrière d'animateur était en train de ralentir un petit peu. Et c'est à ce moment-là. Nous avons créé cette boîte avec Christophe Dindy et avec qui on peut parler quand vous voulez, mais voilà, après, le reste, c'est après lui. Quoi.
Eh bien, justement, nous accueillons sur le plateau virtuel Christophe Dindy. Christophe Dindy, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour Christophe.
Bienvenue au
Christophe Marc.
Bienvenue au Libre Journal des Entrepreneurs en direct. Et donc nous avons compris que vous étiez le co-créateur donc, de cette société de production. Et société Pro IB, avec les IB comme les initiales des deux fondateurs, Indy et Bessou. Et
exactement,
pouvez-vous...
la société interdite. Ouais.
Et justement, pouvez-vous nous dire quelques mots, vous aussi, de votre parcours et de l'aventure entrepreneuriale qu'a été cette société Pro IB, donc société de production de radio et de télévision?
Ah bon, je vais aller très très vite alors. Oui, mon parcours, bon, on était jeunes à l'époque, hein. on avait un peu plus de 30 ans, et on a créé ça en 91. Avant, moi je travaillais dans des grands groupes français à l'export, à l'étranger, sur l'Asie, au Moyen-Orient, des groupes type Thomson CSF, etc. Et j'ai été secrétaire général, je vais dire éphémère, ça a duré un an et demi, du comité français exposition qui organisait des expositions, des salons, etc., en France, à Paris, en France. Et à un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, j'ai envie de monter mon entreprise. Et c'est à ce moment-là que Marc, que je voyais beaucoup, qui était un intime depuis la nuit des temps, on avait habité ensemble et passé tellement de choses ensemble, m'a dit, bah, moi aussi, j'ai envie de créer ma société de production. J'ai dit, bah, ça tombe bien, on va faire ça tous les deux. Et on est parti là-dessus. Et on a créé notre petite société de production en 91. Moi, j'avais quand même pas mal de notions de l'entreprise que lui n'avait pas. Et j'avais un peu de marché potentiel possible sur les entreprises françaises, plutôt les grands groupes type EDF, France Télécom, etc., et les sociétés de défense qui sont assez actuelles en ce moment. Et donc on a démarré comme ça. Moi, je m'occupais de la partie de gérer l'entreprise, de l'organiser, de m'en occuper, et des marchés liés aux films d'entreprise qui étaient très en essor à cette époque.
C'est vrai. Qui était l'activité principale
des
finalement.
Émissions, qui était l'activité, on va dire, ouais, principale si tu veux en chiffre d'affaires, mais au départ, on l'avait créé pour faire une société de production, d'émissions de télévision, de documentaires, etc., dont Marc s'occupait et dont il s'est très bien occupé, et on a fait pas mal de choses, mais ça, je te laisserai en parler.
Alors justement, comment fait-on pour créer dans un domaine aussi particulier que celui du monde audiovisuel? Parce que nous, à Radio Courtoisie, on connaît modestement les contraintes d'une association, hein, qui n'a d'ailleurs, on est la seule radio avec Radio Libertaire à n'avoir aucune ressource publicitaire. C'est évidemment une contrainte majeure, c'est une liberté bien évidemment, mais c'est une contrainte majeure. Mais il
Ah
y
oui,
a...
ce n'est pas facile au niveau gestion, là. Vous êtes
Non, non,
d'accord?
c'est pas facile.
Ouais.
Mais nous avons exactement les mêmes contraintes que une entreprise économique, en pire, puisque on ne peut rien vendre. Donc, ce n'est pas un contrat synalagmatique, j'allais dire. C'est
Non, non,
plutôt
ouais.
une adhésion, et c'est pour ça que nous avons des adhérents sur la qualité de ce que nous faisons. Et donc, c'est une forme d'aumône, hein, comme une église, comme une ONG, etc., qui, en fonction de la qualité du service rendu pour la collectivité, pour le bien commun, eh bien décide ou non de donner. Donc c'est une vraie c'est un sport de combat.
D'ailleurs,
Ah oui,
à ce
bravo,
propos, si
oui,
tu peux, Christophe, si tu peux donner un petit quelque chose, je pense que la radio
je vais essayer. Les revenus sont maigres maintenant à nos âges, je sais, on a beaucoup
Mais
baissé.
c'est la fréquence et le nombre des donateurs qui comptent plus que le montant.
Mais là où, Christophe, je vais lancer, je me permets, je m'autorise,
Oui.
parce qu'il y a vraiment des choses que Christophe sait que je ne sais pas. Par exemple, j'ai réalisé hier, en pensant à ce qu'on allait se dire, que j'étais incapable, vous parlez à des entrepreneurs qui sont compétents, moi je n'y connais rien, j'étais incapable de dire, mais c'était quoi, une SA, une SARL, je n'en sais rien. Donc lui peut vous le dire. Rafraîchis-nous la mémoire, Christophe.
Oui, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un?
Ah si!
Bon, en gros, on a créé une petite SARL.
Attends,
Allez.
Christophe, Christophe,
Ouais.
juste, c'est Louis. Je sais que vous avez une passion en commun avec Marc, qui est l'armée. Hein. D'ailleurs, Marc a évoqué la période où il se posait des questions.
Absolument, on
Et
a commencé comme ça.
vous aviez mis sur votre carte de visite, en dessous de Prohibé, une Winchester. Alors, ma question, est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure en commando ou en stratège?
Plutôt en commando au départ, complètement à l'aveugle.
Ah oui, je
Mais
crois
le
que...
principe du commando, c'est de s'adapter à tout.
Je crois qu'il
Et
n'y a aucun
donc,
stratège, ni
on
lui,
y
ni
est à
moi.
peu près arrivé. Les stratèges, non, non. Alors, on ne peut pas nous appeler des
Non,
stratèges,
les
c'est pas
stratèges,
possible.
c'est pour les mesquins. Nous, on est la fleur au fusil,
Non,
monsieur.
sinon, on aurait eu des vraies carrières si on était des stratèges, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Mais non, non, oui, on avait mis Winchester, parce que prohibé, donc interdit. Donc, les États-Unis, c'était l'époque où les États-Unis étaient très, très. Enfin, tous les jeunes rêvaient des États-Unis, de la liberté de manœuvre, de la liberté économique des États-Unis. Tout était passif, on était parti là-dedans comme ça. L'idée était assez bonne parce que prohibé,
C'est ton
c'était
idée
moins
d'ailleurs,
arrivé, c'était
c'est ton idée,
fini. Donc,
je te rends hommage, c'est toi qui as eu l'idée du jeu de mots, ce qui était bien vu.
Ouais, j'ai peut-être pas fait exprès, mais.
Bon, tu l'avoues maintenant.
Non, pas du tout.
Mais Marc me disait hier en préparant l'émission que c'était peut-être pas une bonne idée marketing. Je pense que c'est au contraire une excellente idée marketing, que justement être à la fois à rebours et dans le côté un petit peu transgressif des codes de l'audiovisuel. Je pense que ce logo et ce titre n'a pas dû vous desservir.
Ah oui, il a bien marché, il a été, il est, oui, il a bien marché. On est devenu un peu la coqueluche du monde des films d'entreprise et du Festival de Biarritz. On était des petits jeunes qui marchaient bien, on avait pas mal de films, on faisait des beaux films avec des vrais budgets, on faisait des trucs pas mal du tout. Et puis, du coup, on a réussi à développer notre entreprise assez correctement les premières années, sans aucun problème. Première année toujours difficile. Hein. Il faut savoir qu'en créant son entreprise, les 3 premières années, c'est quand même une vraie galère. Mais ça vaut le coup et il faut tenir. Voilà, tout l'art, c'est de tenir. Et on arrivait à des petits chiffres d'affaires qui vont paraître minuscules par rapport à maintenant. C'est incomparable. On était encore en francs, on était au début des années 90. Les belles années, on faisait 3 millions de francs, qui pour nous était colossal. Voilà, maintenant, c'est ridicule. Ça représente 500 000 euros. C'est grotesque, quoi. Mais on est 35 ans plus tard.
Mais l'avantage, si je peux me permettre de dire un mot, l'avantage des structures de production, c'est que c'est les boîtes qui sont légères. Il n'y a pas de personnel permanent, ou peu, à part les
Oui,
énormes boîtes.
pour une raison très simple, c'est que le vivier appelons ça des salariés ou des travailleurs, des gens qui viennent travailler dans ces entreprises, appartiennent à un monde tout à fait spécial, propre à l'audiovisuel, qui sont les intermittents du spectacle. Donc, on allait chercher tout ce qui était coût variable, frais variable sur création, sur production, c'était des intervenants du spectacle qu'on prenait à la tâche, réalisateurs, coproducteurs, acteurs, cinéastes, monteurs, etc., qui venaient se rajouter en coût variable sur les frais du film. Et c'était royal parce que on n'avait pas de charge fixe à temps complet de salariés, quoi. On a eu un salarié une fois qui a duré quelques.
Mais il y a beaucoup de boîtes comme ça. Je connais beaucoup de boîtes qui sont efficaces et actives où ils sont 4 salariés. Et à chaque mois, il y a 25 feuilles de paye avec les intermittents du spectacle, mais il n'y a pas, comme le dit Christophe très bien, il n'y a pas de coût fixe permanent. Il n'y a des coûts que s'il y a du marché et s'il y a un film à faire. Donc finalement, avec des chiffres moyens, comme il l'a dit, on peut s'en sortir économiquement mieux qu'une boîte qui vendrait, je ne sais pas, des pièces pour l'automobile, quoi.
Oui, c'est ça, nos coûts fixes étaient très très faibles, très très faibles. Nos coûts fixes étaient notre bureau, quoi, point. Et les vagues salaires qu'on s'accordait quand on a un peu de pognon. Mais ça, c'était du variable en fonction de la santé de l'entreprise. Ce qui comptait avant tout, c'était la santé économique et financière et surtout de trésorerie de l'entreprise. Nos rémunérations étaient annexes.
Comme pour tout chef d'entreprise. Alors, vous parlez des films d'entreprise, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des films de promotion de l'entreprise ou c'est destiné à passer en publicité à la télévision? Parce que ça a beaucoup existé pendant un temps.
On en a fait un peu de films publicitaires télé, mais pas beaucoup, un petit peu. Ça, c'était autre chose. Il y a eu des budgets qui étaient assez colossaux et on n'avait pas la taille critique pour ça. On en a fait un peu, mais très peu. Par contre, les films d'entreprise, de promotion interne, de communication externe ou interne, les films corporate qui présentaient un groupe, une société, etc., ça, on en a fait beaucoup.
Ouais. Ça, c'était un gros marché à l'époque. J'avoue que je ne sais plus comment ça a évolué, mais à l'époque, le film
ça a sombré beaucoup
institutionnel,
avec l'arrivée des technologies nouvelles et modernes. Le film d'entreprise, c'est autre chose maintenant. Tout se fait sur YouTube, tout se fait avec les réseaux, etc. C'est très différent, quoi. Avant, c'était une vraie activité.
Il y avait des boîtes qui ne faisaient que ça.
Fédération, etc. Maintenant, je ne sais même plus que c'est.
On a fait pour Pierre, le labo Pierre Fabre, je pense, le plus gros film qu'on a fait, c'était pour le labo Pierre Fabre. On a fait énormément de films pour EDF. Et il y avait à l'époque un festival à Biarritz. Je dis ça pas pour toi, Christophe, mais pour nos amis qui nous écoutent. Il y avait un énorme festival à Biarritz avec des tas d'entreprises, y compris des gens qui venaient de Corée, avec des films en relief. C'était vraiment un marché très porteur, ce film institutionnel, et on a surfé sur cette époque-là.
Oui, on avait réussi à gagner un petit prix avec ces sites là-bas. C'était assez dément. Mais le marché était. La taille des entreprises de ce secteur était ridicule. C'est-à-dire que nous, avec notre toute petite taille, toute petite entreprise, on était considérés comme des très grosses de ce monde. C'est quand même mourir de rire, quoi. Il y en avait deux plus grosses au-dessus de nous, mais qui devaient faire peut-être une fois et demie ou deux de chiffre d'affaires, pas plus. Enfin, c'était un marché très, très, très éclaté. Très éclaté. N'importe qui ou presque pouvait monter une société de production de films d'entreprise. Et après, ça s'est beaucoup concentré. Et on a fallu se faire concentrer, nous, c'est ce que je voulais, moi, ce que je souhaitais, ce dont je rêvais. Et puis, ça n'a pas marché à cause d'un fait qui n'était pas lié à l'entreprise, et je vais laisser Marc prendre la parole là-dessus.
Passons à autre chose.
Non, écoutez, c'est intéressant parce que ce qui nous intéresse au Libre Journal des Entrepreneurs, c'est de comprendre la vie de l'entreprise et de l'entrepreneur dans ses succès et ses échecs.
L'idée était, vous avez raison, je vais essayer de répondre de manière évasive mais précise à la fois, ce qui n'est pas simple. C'était l'idée de Christophe, il voulait qu'on s'associe, et il avait raison, on pouvait continuer à vivoter comme ça, mais si on voulait prendre une tournure plus pérenne, et notamment arriver à faire des films de télévision réguliers, ce qui était notre but, c'était moi, artistiquement, mon but, il fallait s'adosser à un grand groupe. Il y avait un des plus gros groupes de l'époque, Glisson, il n'existe plus, mais vraiment majeur, et on s'était dit, vous savez faire ça, vous avez tel savoir-faire, nous, on sait faire des films culturels, on peut faire des films pour Arte, des choses comme ça, ce que vous ne connaissez pas. On propose donc que vous nous rachetiez tout ou partie des parts, je ne sais plus très bien, Christophe se souvient mieux que moi. On s'adosse au groupe, on a votre carte de visite pour entrer chez les diffuseurs qui ne nous reçoivent pas, tout petits que nous sommes. Et en revanche, nous, on n'a pas ce savoir-faire là. Et effectivement, un fait annexe a empêché cette réalisation. Mais ça aurait été une bonne idée.
Absolument, ouais. Et c'était le groupe de production de Canal Plus à l'époque. Donc c'était quand même un énorme groupe.
Mais beaucoup de gens ont fait ça. Beaucoup de gens ont fait ça, sont associés. Il y a des tas de conglomérats de 5, 10, 15 boîtes qui, eux, moi je sais travailler pour France 5 parce qu'ils aiment ça. Moi je sais faire des trucs pour M6 parce qu'ils aiment ça. Et ils se regroupent et ça fait des petites oligopoles.
Et donc aujourd'hui, quelle est la physionomie du marché de la production justement?
Je ne sais pas bien répondre. Enfin, je vais répondre un peu plus que Christophe parce que moi je suis resté dans cet univers télé, pas moi. Bah, chez toi. Mais je ne sais plus vous dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a depuis lors beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'éclatement des diffuseurs. Alors avant, il y avait 4 ou 5 clients potentiels, maintenant il y en a 150. Mais ce qui a beaucoup changé aussi, c'est la technique, Christophe le disait déjà, qui rend les tournages plus faciles à faire, tant mieux pour le spectateur qui voit plus de choses, mais tant pis pour l'entreprise qui a du coup moins de budget pour faire les choses. Moi, jamais je n'aurais imaginé de faire un film réalisateur, j'ai été réalisateur après, sans une équipe technique très complète. Maintenant, il y a des gens qui partent tout seuls, le JRI, journaliste, reporter d'image. Il fait le son lui-même, il éclaire la lumière, il pose la question, il fait le montage tout seul. Il y a de plus en plus de choses qui se passent comme ça, avec une économie de moyens extrême. Donc il y a beaucoup de structures petites, avec un marché divers, mais avec, à mon avis, un volume financier qui n'est pas considérable. Donc, pour répondre à la question implicite qui est la vôtre, si je devais le faire maintenant, est-ce que je le ferais ? Je ne crois pas. Voilà.
Et pourtant, il y a de très grands groupes de production audiovisuelle.
Évidemment, il y a des gros groupes, oui, bien sûr.
Mais la barrière à l'entrée, maintenant, est trop forte pour pouvoir rejoindre ce type de
structure. Ça serait malhonnête de ma part de prétendre à une expertise que je n'ai pas. Je pense que il y a beaucoup plus de clients, effectivement, qu'avant, potentiels, mais qui ont moins de moyens. Donc, il faut diversifier.
Oui, et puis c'est un marché qui s'est énormément concentré. Donc maintenant, vous avez d'énormes groupes qui sont colossaux de production, que je ne citerai pas, mais que vous connaissez, pour les télévisions françaises et étrangères et mondiales, et qui, du coup, captent tout. Et les chaînes de télévision qui sont un peu frileuses et qui ont peur des santé financières des entreprises sous-traitantes, se disent, si je m'appuie sur ces énormes groupes qui ont un potentiel presque supérieur au mien, au moins je suis sûr que le truc va aboutir. C'est très important.
Il y a aussi
donc, se lancer là-dedans en téméraire avec 3 francs 6 sous et à 2 personnes, c'est absolument impossible.
Je connais en revanche, alors tout ça est bien sûr à nuancer, mais je connais des petites sociétés, je dis petites sans aucun mépris, qui arrivent à vivre parce qu'ils ont une espèce de niche. J'ai des amis qui ont une société qui marche bien et qui fait essentiellement des films animaliers, par exemple. Donc, ils sont spécialisés et il y a des chaînes, notamment des chaînes que les gens ne connaissent pas forcément immédiatement, Planet TV ou Season,
oui,
Seasons, qui leur commandent. Et donc, c'est une société qui vit. Ils sont, comme nous l'étions à l'époque, 4 permanents, plus beaucoup d'intermittents du spectacle, qui font plus de films que nous, mais ils ne font que ça. Et ils ne passeront sans doute pas le cap d'affaires pour une grosse chaîne. Mais oui, on peut encore vivre malgré tout de l'audiovisuel, à condition d'avoir peut-être la bonne niche ou la bonne. Et on arrive à, je crois que dans tous les milieux c'est pareil, mais l'audiovisuel c'est pire. Si vous ne connaissez pas les gens, si vous n'avez pas le niveau de RP, c'est infaisable. Infaisable, parce que c'est une entreprise, mais il y a en plus le côté égo, paillette. Donc si vous ne connaissez pas les gens, ça ne marchera pas.
Oui, donc tout marche à la relation dans le monde audiovisuel.
Comme beaucoup d'entreprises, non, je suppose.
Je ne dis pas qu'il faille coucher, ça c'est un autre sujet. Mais...
Hugues, je vais rebondir, parce que c'est une des questions qu'on peut se poser quand on pense au monde des médias. Est-ce qu'à l'époque, il fallait être politiquement correct pour réussir ? Est-ce que vous avez ressenti quand même un certain nombre d'injonctions, même si vous n'étiez pas sur des films à thème ou autre chose ? Malgré tout, est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de cet ordre ?
Si je peux dire un mot, non, ça serait un peu malhonnête de dire ça. C'est simplement que l'époque n'était pas la même. On dit maintenant que le politiquement correct sévit, et c'est vrai, mais à l'époque, il sévissait peut-être de manière souple, on ne s'en rendait pas compte. Mais je vais vous donner un exemple. Donc, à l'époque de ça, je rêvais, parce que comme vous l'avez dit, j'aime bien l'histoire de France, l'armée, Christophe était un militaire plus sérieux que moi, on aimait ça. Je me souviens qu'on avait eu l'idée de dire, on va essayer de faire un film sur Dien Bien Phu. À l'époque, on riait au nez, ça n'intéressait pas les gens. Maintenant, des films sur l'histoire, y compris l'histoire militaire française, toutes les chaînes en passent, on peut le faire. Donc, paradoxalement, je pense que ça s'est un peu ouvert. On parle de la...
Sur certains sujets. Moins sur d'autres. Enfin, voilà, les choses évoluent.
Oui, je trouve que les choses évoluent. Je pense qu'on peut parler de l'armée française, par exemple, typiquement, sur plein de chaînes. J'ai fait des films sur plusieurs chaînes, ce qui faisait rire tout le monde il y a 30 ans, ce qui était infaisable. Donc, je pense que, paradoxalement, ça s'est un peu libéré. Et pour répondre à la question de Louis sur le politiquement correct, oui, j'ai des souvenirs, un souvenir assez drôle, par exemple, où j'arrivais à Antenne 2, on disait Antenne 2 à l'époque, et je discutais avec des gens qui me disaient « Qu'est-ce que tu as fait avant ?» Bah, j'étais donc sur FR3, voilà, mais avant... Ben j'étais un peu étudiant, puis j'étais un peu militaire. Ah bon, tu es fasciste ? Oui, voilà, c'est ça, ça doit être ça. Donc ça existait, et c'est quand même beaucoup moins vrai. Et j'ai enfin un souvenir, quand même, Louis, plus récent, je dirais il y a une dizaine d'années, où un de nos amis communs que Christophe connaît rencontre par hasard dans l'univers mondain à Monte-Carlo, je ne sais quel événement, un directeur des programmes d'une grande chaîne. Ils ne se connaissent pas, mais ils discutent comme ça à bâton rompu. Et l'autre lui dit, mais on manque toujours de visage pour incarner les chaînes, on voudrait les gens... Et cet ami, moi je connais bien quelqu'un qui est un animateur, qui est pour l'instant hors du circuit, mais qui sait faire des choses, Marc Bessou. Et on lui dit, oula, Marc Bessou, non, pas de fasciste sur l'antenne. J'ai jamais de ma vie été fasciste, vous connaissez la courtoisie, c'est une accusation qu'on subit tout le temps dès qu'on est un peu conservateur. Donc voilà, ça m'est arrivé deux ou trois fois.
Mais pourquoi, avant même que vous étiez à Radio Courtoisie, on vous a catégorisé comme cela? C'est ça qui serait intéressant de savoir.
Parce que les gens sont manichéens. Parce que dès que vous n'êtes pas complètement... Je me souviens, voilà, quelques exemples. Un jour, il y avait une émission qui s'appelait Opération Drapeau Blanc, où il fallait dire qu'on était favorable à l'imitation de vitesse, et il y avait une sorte de décompte positif des morts, qui dit moins de morts, etc. J'ai beaucoup de compassion pour les accidents de voiture, les blessés, enfin, c'est une épouvante. Mais en même temps, il y avait cette espèce d'évidence qu'il fallait avoir cet avis-là. Au moins, on me propose de faire ça. Je me souviens très bien que je leur ai dit, mais non, moi, j'adore la vitesse. Je refuse de faire ça. On m'a dit, vous êtes fou, ça se confirme. Donc, politiquement correct, je ne sais pas. Ça serait mentir de me faire passer pour une victime d'un complot. Non, c'est pas vrai. Mais tu te rends bien compte que c'est un milieu où, en effet, grosso modo, il y a une espèce de doxa un peu molle.
C'est comme le journalisme. Le journalisme est libre, mais 95% des journalistes sont à gauche. Voilà,
Je ne suis pas caricatural non plus. Ne faites...
Ah non.
Le chiffre, je ne sais pas d'où vous sortez un chiffre.
Alors,
pareil.
Il y a eu, notamment sur les rédactions du Figaro, du Monde, etc., le total des votes pour... Alors, il faudrait qu'un auditeur était entre 70 et 90% le total des votes de gauche au premier tour à la dernière élection présidentielle. Non.
Bon, d'accord.
Regardez sur Internet, vous verrez que c'est... Alors, justement, je ne veux pas être caricatural, et si je me suis trompé, je ferai amende honorable. Je le promets à nos auditeurs.
Je vous écouterai le faire.
non, mais c'est un... Et encore une fois, c'est là aussi où il y a une... Je pense qu'il y a une incompréhension à la fois dans ce milieu, à gauche et à droite, et dans le grand public, et ça on peut peut-être en parler parce que c'est un sujet intéressant, sur la question de la liberté des médias, de l'indépendance des médias et de la liberté d'expression. Je m'explique. À gauche, je pense qu'ils ont le sentiment que petit 1, tout peut se dire parce que globalement, il y a peu de choses réellement interdites, et deuxièmement, eux-mêmes considèrent qu'il y a plein de choses qu'on ne puisse pas dire, à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort. Et donc, ils ne comprennent pas l'accusation.
Oui, je comprends.
Et de l'autre côté, vous avez des gens qui disent, attendez, non seulement on ne peut pas tout dire, deuxièmement, il y a des sujets que vous censurez vous-même, et troisièmement, même si on avait le droit de tout dire, bon, quand il y a une majorité écrasante de gens qui pensent d'une certaine façon, ça a évidemment une influence sur les sujets traités et la façon de les traiter. Donc, j'essaye toujours de me mettre à la place des autres.
Je suis d'accord avec vous, mais pour répondre, moi, je ne veux pas non plus, comment dirais-je, je ne veux pas rentrer dans les habits de la pensée dominante, loin de là, c'est vraiment pas mon genre. En revanche, je ne veux pas non plus me présenter comme quelqu'un qui aurait été victime de ses convictions, non, c'est faux. Ce que j'ai fait à l'époque, et ce qu'on a fait aussi avec Christophe et Prohibé, c'était des choses qui étaient un peu hors du champ politique. Ça serait vraiment malhonnête de dire maintenant, pour aller au secours de la pensée qui est de mise ici et que je partage, en gros, mais que nous, on a été victimes. Non. J'ai jamais fait un journal d'info, on a fait des émissions, on a fait une série, très belle série avec Christophe sur les aventuriers écrivains, avec un autre producteur, Jean-Charles Ostorero. À aucun moment, on m'a dit, utilisez tel écrivain, ne parlez pas de Romain Garré parce qu'il était à droite. Non, on a été complètement libre. On sentait bien qu'en gros, les gens n'aimaient pas les sujets qui fâchent, mais c'était pas notre rayon, donc je ne veux pas mentir et dire que j'ai senti cette pesanteur-là, ça serait injuste.
Et alors justement, Christophe et Marc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les émissions que vous avez produites pour la télévision?
Pour la télévision, vas-y Marc.
Non, je t'en prie, on a produit de manière un peu indirecte. Quand on a commencé d'ailleurs, Prohibé, moi j'avais animé une émission à l'époque sur France 3, à midi, un petit talk show. Et alors l'idée, bonne idée d'ailleurs de Christophe, était de dire, pour l'instant on a cette petite chose-là, est-ce qu'on peut proposer à l'entreprise, c'était assez rare, à France 3 de dire, vous ne versez pas un salaire à Marc, vous faites une facture pour l'entreprise, facture qui englobe son salaire et les charges que vous eussiez payées. Ça paraît simple comme idée, mais c'était celle de Christophe. Moi, ça m'a ébloui. Je me disais, comment une idée pareille? Donc, en fin de compte, j'étais payé 20, je dis n'importe quel chiffre, et on faisait une facture de 32. Donc voilà, c'était la première petite chose. On n'était pas producteur, mais on était exécutif, comme on dit. Et en revanche, après, le gros truc qu'on a pu faire en télévision directe, c'était effectivement cette série sur les aventuriers écrivains. Mais là, la petite taille de l'entreprise, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure, nous a posé un problème. On a vendu le concept très facilement aux gens d'Arte, mais très facilement, en deux rendez-vous. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sauf qu'ils nous ont dit, vous êtes gentil, l'émission semble une bonne idée, mais vous êtes petit, vous n'avez pas fait grand-chose, donc on va passer par un autre producteur. Et on a articulé, on est devenus des amis, ça s'est bien passé. Mais ça s'est articulé. On s'est associé, on n'a pas pu le faire tout seul. On l'a fait quand même. Mais on n'aurait pas pu le faire tout seul. Il lui fallut avoir plus de poids.
C'est bien déjà.
C'est très bien. Surtout le sujet était captivant. C'était vraiment le truc qui me portait depuis le début, les grands écrivains du voyage. On a fait 12 émissions et ça a tellement marché.
Ça a duré, ça a duré au moins 3 ans, 3-4 ans.
Il y a eu 2 saisons et ils nous ont recommandé. Et là, il faut reconnaître que l'autre producteur a été formidable. Parce qu'une fois que l'émission a été faite sur Arte, là, les 2 saisons, terminées. Après, la chaîne change, France 5 se crée. Ils entendent parler de ce programme-là et ils en recommandent d'autres. Donc ils appellent, ils cherchent sur Internet et ils voient « Ah, le producteur, c'est lui, pas nous ». Donc il appelle l'autre producteur et il leur dit « Faites-nous une autre série ». Et c'est là où il a été fair play. On aurait pu disputer, on aurait peut-être plus gain de cause, mais ça aurait été triste. C'est qu'il est revenu vers nous en disant « Messieurs, on nous propose une autre série, associons-nous à nouveau ». Et on l'a fait. Donc 34 films sur les écrivains du voyage et de l'aventure, c'était formidable. Mais en télévision vraiment directe, à part mes propres émissions d'animateurs, on n'a pas eu tout à fait la taille pour en faire d'autres.
Alors, on va peut-être terminer avec Christophe Dindy sur sa vision qu'il a eue de l'entreprise, de son développement, des difficultés, des succès. Et on parlera, vous, de votre carrière, entre guillemets, en solo, si vous le voulez bien. Christophe Dindy, justement, concernant la gestion d'une entreprise, quelles sont un petit peu les caractéristiques qu'il faut avoir en tête dans cet univers et dans ce milieu? Et avec le recul, qu'est-ce que vous pensez que vous avez réussi et qu'est-ce que vous pensez que vous auriez dû faire peut-être un petit peu différemment?
Travailler.
Ben non, si on va dans les médias, c'est pour rigoler.
Mais je crois qu'on s'est, je vais laisser Christophe répondre, mais je crois qu'on s'est intoxiqué l'un l'autre. C'est-à-dire, chacun a cru que l'autre était compétent. Il est parti ? Ah oui, il est parti, il n'est plus là, j'ai l'impression.
Et bon, et ben écoute, on en profite pour faire la pause Bobino, ça permet de réfléchir et on reprend sur cette question.
Non,
sur
non,
la
je
réponse
suis toujours là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Très bien, alors, Christophe.
Hein, pardon ?
Non, Christophe, ne vous inquiétez pas, on est là, on vous entend. Mais...
Allez-y, Christophe.
Bon, voilà. Oui, alors, en fait, quand vous créez une entreprise avec très peu de moyens, en tout petit comité, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie de l'entreprise. Vous savez que les banques ne vont pas beaucoup vous aider, ne vont pas beaucoup vous appuyer. Tout l'art, ce n'est pas l'exploitation, ce n'est pas le résultat, c'est la trésorerie. Donc, tout l'art, c'est d'arriver à gérer votre boîte de façon à ce qu'il y ait toujours un peu de trésorerie dans votre boîte pour ne pas être tout de suite mis par terre parce que vous rentrez en cessation de paiement et là, c'est fini. Et c'est liquidation immédiate. Donc, il faut bien penser à ça. Tout l'art, c'est la trésorerie.
Mais c'était des flux tendus, je me souviens. Alors, je n'y connais, vous allez.
Flux tendus permanents.
Me rire au nez, mais à l'époque, je me souviens, Christophe, qu'il y avait un système qui existait, qui permettait d'avancer un peu la perception des factures. C'était le DAI, on disait ça. Oui, ça existe toujours, ça?
C'est une forme d'affacturage, si
voilà,
vous voulez.
Voilà, c'est ça. Donc, on s'en sortait parfois avec ça. On mettait ça au DAI, comme on disait, Christophe.
Oui, parce que, oui, c'est tout à fait raison, parce que, aussi bien les chaînes de télévision que les grands groupes, payait à l'époque, maintenant le règlement maximal c'est 45 jours, à l'époque c'était 60 ou 90 ou même 120.
Et on payait les salaires à la fin
donc,
du mois.
Donc on ne pouvait pas tenir.
Donc, mais je me souviens de ça, je me souviens de Christophe, donc encore une fois.
On payait nos factures contre un petit pourcentage, on encaissait tout de suite et puis voilà, on n'avait pas le choix.
Et il me disait ça, on va mettre les factures au DAI. Je pensais qu'il n'y avait pas eu DAU, vous savez l'animal mythique de la montagne. Et donc j'ai dit, d'accord, on va mettre au DAI, d'accord. Mais c'était utile, effectivement. Et voilà, c'était une petite astuce, mais qui fait rire les entrepreneurs compétents, que je ne suis pas, mais qui nous a permis de tenir parce que les salaires, en revanche, il fallait les payer. Et on était nous-mêmes payés parfois au bout de 60 jours.
C'est ce qu'on appelle le financement du poste client.
Oh, c'est remarquable. Ah, très
c'est
poétique. C'est
très beau.
Ah, bravo.
Hein.
Oh là là.
Et oui,
bravo.
Et vous savez.
Et puis, alors nous, sur chaque opération, sur chaque film, moi, je faisais un petit compte d'exploitation. Vous imputez tous les coûts variables, je faisais une proportionnalité des coûts fixes, et j'essayais par tout moyen de sortir un petit résultat positif d'exploitation. Quoi.
À ce propos, j'ai retrouvé des notes de frais de 93, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, il faut qu'on en parle, oui.
Il faut qu'on en parle, exactement, oui. Non.
Ah ben vous avez la mentalité comptable, c'est foutu, vous êtes. Bon, mais continuons, Christophe Dindy. Donc, parce qu'en effet, ce que vous dites nous le faisons de façon légère, mais c'est fondamental. Toute entreprise ne meurt qu'à cause de la trésorerie. On peut faire 1 milliard de chiffre d'affaires, s'il manque de la trésorerie, eh bien, on finira en redressement judiciaire. Et à l'inverse, si on a 1 milliard de trésor, on peut très bien ne pas avoir de chiffre d'affaires pendant des siècles.
On peut faire ce qu'on veut.
Ouais. Autre chose qui vous a marqué dans la gestion de cette entreprise ?
Qu'est-ce qui m'a marqué dans la gestion de cette entreprise ? C'était qu'à partir du moment où on commençait à avoir un tout petit peu d'existence, de succès, de machin, tout d'un coup, ça intéressait des éléments extérieurs, type les banques, par exemple, ou des investisseurs potentiels, et que du coup, on avait l'impression d'être... d'être intéressant et on a l'impression de se dire tiens, on va peut-être pouvoir terminer correctement notre truc ou arriver au bout de ce qu'on voulait. Moi, mon but, c'était de me marier avec un grand groupe pour continuer dans cette spécialité liée aux télévisions. Bon, le truc n'a pas marché. Voilà, donc après, moi, j'ai laissé la main et j'ai laissé Marc avec un de nos compagnons qui s'appelle Étienne Goldet, qui nous avait rejoint en 93. Voilà. Mais voilà, c'est ce dont je me rappelle, parce que c'est lointain. Hein, c'est
y a mais Christophe a fait de la politique après. Il était adjoint au maire du 8e, j'ai le droit de le dire, c'est
d'accord,
pas un secret.
D'accord.
Donc il a fait de la politique un peu, et nous on est restés, on a fait à nouveau, on a fait une série de films pas mal après ton départ, j'y repense maintenant, on a fait une série de films pour EDF, des émissions cette fois, des émissions, comme interne de EDF, des grosses émissions, on a fait un bon budget, et on a fait aussi une série de DVD, ça aurait pu être très bien, mais ça a été dépassé technologiquement. On a fait une série de DVD pour les taxis. On avait une compagnie de taxis qui diffusait un DVD quand les touristes arrivaient, qui disait voilà ce qui se passe en ce moment à Paris. Ça paraît simple et ça paraissait moderne à l'époque.
C'est malin.
On a fait ça, c'était assez malin. Ça a été battu en brèche très vite, mais on a fait ça pendant une saison et c'était un boulot fou. C'était le dernier gros truc qu'on ait fait avec cette entreprise. Je ne suis même pas sûr que j'ai pensé à vraiment déclarer les comptes finaux il y a 20 ans. Je ne sais pas comment
ça s'est
terminé.
Alors oui, justement, comment cette entreprise a pris fin ? Parce que c'est intéressant également de savoir pourquoi finalement, à un moment, ça s'arrête.
Parce que Christophe avait l'énergie entrepreneuriale qui n'est pas mon cas, donc il a voulu faire autre chose. Enfin, j'ai pas parlé en son nom, mais voilà, il a fait autre chose. On a un peu continué, et puis après, moi, je préfère être libre, faire des films ponctuels. J'avais pas la force de cette routine administrative qui est indispensable et qui n'était pas dans mon psychisme.
Très bien. Christophe Dindy, merci beaucoup. Passionnant votre expérience. Et alors aujourd'hui, sans indiscrétion, vous êtes de nouveau entrepreneur ou pas ?
Alors oui, enfin, entrepreneur, c'est un grand mot, non, celui. Alors, vous savez qu'on a l'âge de la retraite, hein, pour être très direct. Donc, je suis officiellement à la retraite. Et toi aussi, non ? Et puis, j'ai une toute petite entreprise pour gérer 2-3 bricoles dans mon Ardèche que j'aime et dans mon Sud-Est. Ouais, c'est ça.
Très bien. Bah, écoutez, bravo et en tout cas, merci pour ce témoignage. Et nous allons en profiter maintenant pour passer un bobino utile pour la vie de notre radio qui ne vit que grâce aux dons et au soutien de ses auditeurs.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Nous nous retrouvons en direct au Libre Journal des Entrepreneurs et avec Louis Laboca, nous avons, et Uxer Rapion, nous avons le plaisir donc d'échanger avec Marc Bessou. Marc Bessou, merci. Donc, qui a eu toute une carrière dans l'audiovisuel et qui, justement, c'est peut-être le moment d'en parler, vous avez également vous-même été, alors je ne sais pas s'il faut dire animateur, producteur, présentateur d'émissions, mais en tout cas d'émissions extrêmement connues et populaires. Et j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots.
Donc, oui, avec joie. Donc, j'ai fait, on en a parlé très brièvement tout à l'heure, j'ai fait à la fin des années 80 beaucoup d'émissions sur le service public, donc 40 degrés à l'ombre, les grosses émissions de l'été qui tournaient. Vraiment, j'ai encore des gens maintenant qui me disent j'étais adolescent à l'époque, c'était formidable. J'ai fait l'émission de l'après-midi sur la 2 qui était animée auparavant par Christophe de Chavannes. Il est parti sur TF1 et je lui ai succédé, ça s'appelait C'est en commun l'après-midi. Ça a changé de nom après, je crois, j'ai un peu oublié. J'ai fait donc les débuts de Faut pas rêver, belle émission produite par l'équipe de Thalassa, Georges Pernoud, qui existe encore. J'ai fait donc l'émission sur la 5, j'ai fait ensuite des émissions sur France 3, j'ai fait le talk show quotidien sur France 3 à Île-de-France pendant peut-être 2 ou 3 saisons, j'ai un peu oublié les détails. Et puis j'ai fait la dernière grosse émission que j'ai faite, c'était La Carte au Trésor, voilà, qui était quand même un mythe de la télé française, qui a été animée pendant 10 ans par Sylvain Augier, qui est le présentateur historique de cette émission. Et puis, pour des raisons variées, ils se sont séparés. Donc, je suis allé participer à un casting. J'ai toujours refusé de le faire. Je pensais que ma dignité m'interdisait. J'ai eu tort. C'est le seul que j'ai fait. À part celui avec Belmar au début. Et j'ai bien fait, puisque j'ai pu obtenir cette émission.
Deux castings, deux succès. Bravo.
Ah, monsieur, c'est du 100%. Mais j'aurais peut-être dû en faire 25.
Mais, oui.
Mais donc, voilà, j'ai fait celui-là. Ça s'est très bien passé grâce à Nicolas Pernikoff, qui est directeur des programmes de France 3 à l'époque. C'est lui qui est venu me chercher pour faire le casting. J'ai fait ce casting. Et ça a offert sourire. Si j'ai le droit de raconter ça, parce que ça c'est un peu surprenant pour le public. Donc je fais le casting. Ça se passe comme... Voilà, je n'imaginais pas trop mal, mais j'ai su après qu'en réalité, la carte des traiteurs marchait très bien sur certains segments de population, c'est-à-dire par les adolescents ou les seniors, j'invente. Mais qu'il y avait un problème sur les femmes 25-45, je ne sais plus quelle est la tranche. Il y avait un problème de cette émission sur cette tranche-là. Et donc, en réalité, le casting n'a pas été montré à des professionnels, il a été montré à des gens censément représentatifs de ça. Donc, en fait, quand je n'ai dû cette émission, je croyais que c'était à ma culture générale, mais pas du tout.
C'est dû que... à votre physique.
Oui, mais c'était il y a un certain temps déjà. Mais c'est dû au fait que sur ce casting-là, sur cette tranche-là de public, j'avais été mieux perçu que d'autres, ce qui n'a pas de sens. Peut-être que le lendemain, ça aurait été un autre, mais ça s'est passé comme ça. Ça se joue à des détails absurdes.
Parce que il y a des parts de marché derrière. On n'est pas à Radio Courtoisie.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est un peu aléatoire et artificiel. On est plus ou moins en forme tel jour. Si j'ai fait le casting le lendemain, ça aurait été peut-être pas moi. Ça tient à peu de choses. Mais ce qui est certain, c'est que c'est comme ça maintenant. Et quand vous faites un film, c'est même presque pire. C'est-à-dire que les chaînes sont les yeux rivés sur la courbe d'audience et disent à midi 23, il y a une je vais inventer totalement, mais paradoxal, paroxystique. Mais à 12h23, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y avait un barbu sur l'antenne. Ah, plus de barbu dorénavant. J'exagère, mais on n'est pas loin de ça. À l'époque où j'ai commencé, c'était quand même plus libre. Donc voilà, la carte trésor, à l'issue de la carte trésor, j'aurais bien continué.
Alors juste, Marc, oui, quand même, on peut rester un peu sur oui, les cartes au trésor, parce que il y a beaucoup de souvenirs attachés à cette
bien
émission.
Bien sûr, c'était formidable.
Est-ce que tu peux, toi, nous remémorer à quels défis tu étais confronté et comment tu les as traités?
C'est beaucoup d'honneur. Le vrai défi, c'était celui des candidats. J'ai donc, moi, à part circuler dans l'hélicoptère, ce qu'on n'imagine pas bien, en revanche, si j'ai le droit de raconter ses souvenirs internes, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est un peu bidonné. Ils disent, c'est pas normal qu'ils trouvent tout de suite quelqu'un pour l'accompagner. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Non, ce n'est pas bidonné. Simplement, parfois, à l'antenne, le temps d'attente disparaît. C'est-à-dire qu'il est au carrefour pendant 20 minutes. On ne va pas filmer le gars qui attend 20 minutes où il ne se passe rien. Donc, il attend 30 secondes et une voiture le prend. Mais ce sont des vraies voitures. Sachant que sur une émission, il y a 40 lieux de pose possible d'hélicoptère. Donc, la production n'a pas, même si elle est importante, n'a pas les moyens d'avoir des figurants avec des voitures dans 40 endroits. Donc, non, la carte au trésor, tel que je l'ai connu, n'est pas bidon du tout, du tout, du tout. Le temps de vol en hélicoptère était raccourci aussi pour des raisons faciles à comprendre, d'intérêt visuel. Mais non, ça n'est pas bidon du tout. Mais j'ai des souvenirs assez drôles parfois. Les hélicoptères sont loin les uns des autres. Moi, souvent, les candidats, je ne les entendais pas, je ne les voyais pas. Et on me disait, il entre dans la mairie. À l'oreille. Moi, je dis, alors Jean-Paul, vous entrez dans la mairie, c'est formidable, mais je ne le voyais pas. Et il a dit ça. Ah, vous avez dit ça? Voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Un jour, en revanche, l'hélicoptère passe très bas et je vois le candidat. Je le vois et je l'entends. Donc, on s'approche, on le regarde et je vois une voiture à 500 mètres de lui dans un chemin poussiéreux le long de la Marne qui s'arrête net et qui fonce vers lui. On se dit, formidable, il a de la chance, ils viennent le chercher. Et on entend tout au casque. Et le conducteur sort et s'approche du candidat. Vous êtes bien à la carte au trésor? Le type haletant. Oui, c'est nous. J'ai horreur de cette émission. Et il s'en va. Et ça, j'aurais rêvé qu'on le monte. Ça n'a jamais été monté. C'était un vrai plaisir. Ou bien, bon, je vais essayer de rester convenable. Mais il cherchait une fois, je crois, le tombeau d'un peintre. J'ai un peu oublié lequel, dans la région de Giverny, dans la région où tous les peintres impressionnistes se rendaient. Il cherche le tombeau d'un peintre. Et il dit, je crois que le peintre est enterré près de sa femme. Le type qui passe, un gars un petit peu limité intellectuellement, lui dit, ah bah, si c'était un peintre... Il n'avait sûrement pas de femme, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des trucs comme ça. Je suis un peu navré, mais j'ai vécu des choses comme ça. Ce n'est pas le fond des choses, mais c'était parfois drôle.
Oui, mais c'est la vie quotidienne en France.
Je peux une dernière anecdote?
Bien sûr, vas-y.
On se pose. La 4 heures, c'est énorme. Quoi. C'est la plus grosse émission qu'il y avait à la télévision. Il y a 5 hélicoptères, il y a 70 personnes. Enfin, c'est énorme. On est posé dans un village. Il y a un monsieur qui vient me voir, un monsieur âgé, enfin qui me semblait âgé à l'époque. Qui me dit, alors donc c'est vous qui animez désormais la carte au trésor? J'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, écoutez, je vous le dis franchement, je préférais que c'était le commandant Cousteau qui l'animait. À quel moment le commandant Cousteau animait la carte au trésor? Je ne sais pas. On est parfois surpris. Mais, et pour finir, Louis, ce qui est en revanche plus décevant, c'est le traitement médiatique des choses. Je m'explique. Un journaliste d'un grand journal français suit l'émission un jour. On me dit, il est là, il va suivre l'émission. Il est en bas, avec sa voiture, il écoute, il voit comment ça se passe. Et il se trouve qu'un candidat, à un moment, me dit, est-ce que le roi en question, on était en France, ne serait pas Henri VIII? Moi, je lui dis, mais on est en France, monsieur, il n'y a pas d'Henri VIII en France. Je n'ai pas plus méchamment que ça. À la fin de la journée, le journaliste me dit, ils ne sont pas très bons hein, en histoire. Je lui dis, bah oui, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Ça s'arrête là. Après, on parle pendant une heure. 15 jours après, le journal sort. je vois titre, Marc Bessou, ouvrez les guillemets. Les candidats sont mauvais en histoire. Un peu énervant. Oh. Donc je rappelle le journal, je dis, mais pourquoi faites-vous ça? Il me dit, ah, c'est pas moi, c'est le titreur. Chacun se déresponsabilise. Et de même que Europe 1, à l'époque, un animateur toujours en place, mais très mal vu, donc on, voilà, me téléphone, me dit, voulez-vous parler de l'émission sur l'antenne? Je dis, oui, volontiers. Et il me téléphone, on commence à. Il me dit, alors, c'est vrai que vous avez peur dans l'hélicoptère? On peut pas parler du contenu? Ah non, c'est plus intéressant de savoir si vous avez peur dans l'hélicoptère. Non, bah, j'ai non. Pas peur, non. Mais bon, on peut parler d'autre chose. Non, on tire vers le bas. Et de même que, et après j'ai fini avec ça, de même qu'une fois que j'ai été éjecté de l'émission, pas d'hélicoptère heureusement, que j'ai été éjecté de l'émission, je reçois un coup de fil d'un grand journal spécialisé en télévision qui me dit, alors vous ne faites plus l'émission maintenant? Non, c'est une jeune femme, Nathalie Simon, très bien d'ailleurs, contre laquelle je n'ai rien, qui va le faire. Sachez que, on me dit textuellement, nos colonnes vous sont ouvertes pour que vous puissiez critiquer son animation. Je ne le ferai pas. Mais pourquoi vous ne le ferez pas? Je ne sais pas. Un peu d'indécence, un peu de politesse. Enfin, pourquoi je ferais ça? Et la fille du journal me dit, on m'a dit que vous étiez psychorigide. Ça se confirme. Donc tu n'entres pas dans le jeu malsain de la surenchère et de critiquer les gens, tu es rigide. C'est l'aspect désolant.
Mais justement, Marc Bessou, je pense que c'est intéressant d'avoir ces témoignages, entre guillemets, de l'intérieur. Parce que, je pense, et c'est pour ça que Radio Courtoisie existe, mais lorsque l'on regarde ce qui peut nous arriver de temps en temps d'autres médias, on est parfois pris d'un certain malaise, et sur tout type d'émissions. Je regardais les municipales, bon, ça m'arrive rarement de regarder la télévision, mais je regardais les municipales, et à chaque fois, quand même, les journalistes essayent de coincer parce qu'on leur a appris que ça se faisait en réalité. Et je pense que ça crée une sorte de mal-être et de désespérance de l'auditeur qui a une réponse langue de bois de celui à qui on a posé la question. Parce que c'est pareil si on vous posait une question gênante sur votre femme, vous n'allez pas répondre. Et donc on va dire, ah, alors vous refusez de répondre. Non, c'est juste déplacé, c'est pas le sujet.
Voilà. Mais et je pense qu'ils ont peur d'avoir l'air inféodé. Et donc maintenant, c'est une espèce de revanche pour eux de se dire, regardez, je peux me permettre d'interpeller brutalement le président de la République parce que j'ai de la personnalité, moi, monsieur.
Non, mais on peut interpeller sur le fond, c'est-à-dire sur les idées, etc. Mais là, on était sur des questions. Mais alors, est-ce que vous allez vous présenter à la présidentielle en 2032 ou en 2054
On va au plus petit commun des dénominateurs, voilà. Vous le savez bien, de plus en plus.
Alors, ça, c'est vrai que c'est une première remarque. Et une deuxième remarque, comment vous pensez que son... Parce que si j'ai bien compris, ce sont quand même des sociétés commerciales. Alors là, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour leur commerce. Ça, c'est une question. Mais en revanche, sur les émissions, j'imagine que toutes les chaînes essayent d'avoir les émissions qui font le plus d'audience. Et donc, comment font-ils pour les concocter?
Je ne saurais vous répondre. Il y a d'une part, ne confondons pas quand même ce qui est du domaine de la rédaction, notamment dans le service public, où les journalistes, vous parlez d'émissions sur les municipales, ça c'est le service politique de la chaîne qui traite ça en interne, notamment dans les chaînes publiques. Il n'y a pas de producteur extérieur. Pour le reste, eh bien, les chaînes, et c'est logique, c'est pas forcément incompréhensible, cherchent ce qui marche le mieux. La subtilité, c'est qu'il y a un service public que tout le monde dénigre. Eh bien, moi, je ne le ferai pas. Ce service public, lui, n'a pas tout à fait le même objectif d'audience que les autres. Donc, on peut attendre de lui qu'il soit plus qualitatif. Oui.
Et donc, être d'autant plus déçu si ce n'est pas le cas. Vous en serez d'accord.
Oui, oui, oui. Mais encore une fois, je n'ai aucun droit à passer pour un expert. J'ai vécu dans ce milieu étant un tout petit acteur de la question, un saltimbanque. Je ne veux pas me poser en... m'ériger en juge et en connaisseur. Je trouve qu'il est de bon ton dans les milieux conservateurs contre lesquels je n'ai rien et auxquels, au fond, intellectuellement, j'appartiens, soyons francs. Mais critiquer le service public systématiquement, qui serait une espèce de repère de gauchiste fou, ça me semble quand même très excessif.
Alors, ce n'était pas du tout le sens.
Juste une petite intervention par rapport à ce que disait Marc tout à l'heure. C'est, tu as dit que tu as été éjecté de l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait et comment tu aurais pu éviter ça?
En étant meilleur. Je ne sais pas comment j'aurais pu l'éviter. Je pense, encore une fois, on n'est pas propriétaire de son siège. Patrick Sébastien l'a vécu, il en souffre et je le comprends. Les renvois sont cruels, on croit que le public nous appartient, il ne nous appartient pas. Ce qui est un peu décevant, c'est que c'est parfois fait avec beaucoup de brutalité. Je pense que c'est tout aussi dur quand on est licencié d'une boulangerie ou de n'importe où, où le cadre supérieur qu'évoque Eddie Mitchell, vous vous souvenez de cette chanson « Il ne rentre pas ce soir », le cadre qui a été renvoyé,
oui,
c'est dur pour tout le monde.
Oui.
Ça paraît plus dur à la télévision parce qu'en plus, les gens vous voient, ne vous voient plus. Donc, vous êtes sur l'antenne, vous n'êtes plus là.
Vous êtes effacé.
Vous êtes prêt à dire, alors ça va, c'est comme si vous étiez mort. On n'est pas mort. En l'occurrence, Louis, pour répondre à la question, il se trouve que c'est le tributaire de choix individuels. Le directeur des programmes qui m'avait engagé après le casting était parti. Il était remplacé par quelqu'un d'autre qui était une femme et qui voulait ce que je ne mets pas en cause, c'est son droit, mais qui voulait mettre sa patte, elle aussi. Et elle voulait qu'il y ait une femme à l'antenne. C'est son droit. Donc, je ne m'y attendais pas. Ce qui a été merveilleux...
Ah, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts pour vous adapter, là.
Bah, oui, j'aurais pu, une opération au Brésil. J'y ai pas pensé. Mais c'est plutôt que... Ce que j'ai trouvé un peu abrupt, c'est qu'on était à quelques semaines, je ne sais plus très bien, ou mois, du prochain tournage de l'émission d'après. Le producteur, je voudrais le citer, si j'ai le droit, Christophe Cossé, qui était un homme formidable, qui produisait l'émission et qui la vendait donc à la chaîne, s'est battu pour que je reste. Et il était tellement délicat que non seulement il s'est battu pour que je reste, mais il ne me l'a même pas dit. C'est l'élégance parfaite et je lui rends un hommage régulièrement parce que peu de gens sont comme ça dans ce milieu. C'est quelqu'un d'une grande droiture. Il a été formidable. Mais bon, la chaîne voulait mettre une femme, c'est leur droit. Ce qui m'a un peu contrarié, c'est qu'on me l'a dit brutalement et je m'y attendais pas du tout. Je vois ce rendez-vous, la personne me dit « Alors, cette année, c'est un peu différent, il y a une shortlist de gens qui vont faire l'émission. » Alors, je me suis dit « Ah bon, une shortlist, c'est-à-dire une petite liste de noms un peu courte dans laquelle se trouve l'animateur. » Donc, j'étais un peu vexé. Je suis passé de l'animateur titulaire à celui qui est mis en compétition. Mais vous n'êtes même pas dans la liste. Ah bon, et ça se passe comme ça. Je me souviens qu'elle m'a dit à la fin, alors oui, je comprends, c'est un peu difficile, mais vous allez rebondir. Alors on s'embrasse. Je dis, non, je ne pense pas, non. Et puis je suis parti. Mais c'est comme ça. Je ne suis pas une victime, du tout. C'est comme ça.
Mais c'est le milieu qui fonctionne.
Mais
comme
il faut
ça,
l'accepter. Voilà. On n'a aucun droit de se dire c'est une autoroute et je vais être sur l'antenne tout le temps. Les gens veulent de vous, ils vous exposent et à un moment ils ne veulent plus de vous. C'est la vie. Ça fait mal, mais c'est la vie. C'est pas non plus forcément injuste.
Alors, Marc, comment as-tu rebondi derrière? Je pense qu'il faudra qu'on prenne un tout petit peu de temps pour s'intéresser à certains de tes documentaires, oui. Certaines de tes réalisations, parce qu'il y a de belles investigations qui ont été faites. Mm-hmm. Mais voilà, on va vite passer au rebond, hein, parce que ça, c'est important. Et puis ensuite, on reviendra sur ces travaux. Hein.
Oui, voilà. Donc, une fois que j'ai compris, j'ai fait une petite chose amusante. Tiens, j'y pense, vous ne saviez pas, à mon avis, tous les deux. Une expérience intéressante, j'ai fait des spots pour les élections présidentielles. J'ai fait, vous savez, les spots publicitaires qui passent pendant la campagne.
Les spots officiels de la campagne.
J'ai fait les spots d'Alain Madelin. Et c'est un souvenir incroyable, je n'ai jamais vécu ça. C'est qu'il y a une telle volonté d'équité que quand vous tournez ce que vous voulez, mais en revanche, le minutage final doit être le même et vous avez le même temps. Vous ne pouvez pas monter ça chez vous. Vous êtes dans des préfabriqués installés à la maison de la radio. Chaque candidat a son monteur. Il y a un appareilleur qui passe avec le chronomètre. Il dit à vous, attention, top ! Et vous avez le même temps pour monter. Quand vous arrêtez, vous le signalez, il décompte le temps. Donc c'est fait avec une rigueur implacable. Donc j'ai vécu cette expérience avec le monteur de monter le film pour Madelin sous l'œil de Big Brother qui surveillait qu'on ne dépassait pas, qu'on ne faisait pas... Voilà, c'est la seule incursion que j'ai faite dans la politique indirectement. Mais autrement, donc ma carrière battait un peu de l'aile. C'est vrai, je me suis fâché avec les gens de pratiquement toutes les chaînes. Encore aujourd'hui, je me demande si j'ai eu tort. Peut-être que oui, je sais pas. Oui, tactiquement, oui. Mais bon, ça a été un peu difficile. Et donc, comme depuis longtemps, je portais l'envie de réaliser aussi des films, j'avais fait quelques-uns avec la série dont j'ai parlé tout à l'heure sur les aventuriers écrivains. Joseph Kessel, Albert Londres, Romain Gary, Blaise Cendrars, Hemingway, enfin des noms qui font un peu rêver l'amateur de littérature que j'étais. Et à part ça, donc ayant maintenant une petite expérience de réalisateur, comme je me suis dit qu'animateur c'était un peu fini sans doute, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir sur quelques films historiques que j'ai fait pour différentes chaînes, notamment un film, j'ai fait un beau film qui se passait, je ne sais pas si vous connaissez Théodore Monod, qui était ce scientifique universel. Bien sûr. J'ai eu la chance de faire son dernier film où il marchait dans le désert. J'ai fait des films de voyage à Cuba, à La Réunion, au Maroc. Et puis j'ai fait des films historiques, notamment pour la chaîne Histoire, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait un film sur les anciens, deux déserteurs qui avaient déserté pendant la guerre d'Algérie, qui avaient écrit à leurs parents, j'avais trouvé par hasard, je lis beaucoup de livres sur l'histoire, et j'avais découvert ces deux lettres adressées à leur père. On avait l'impression que c'était la même chose, sauf qu'ils avaient fait un choix inverse. Les deux disant, mon papa, cher papa, on va te dire que je suis un traître, un déserteur, je ne crois pas. Je suis fidèle à la France et à la parole donnée. L'un disant, je suis fidèle à la France et à la parole donnée, c'est-à-dire, on m'a dit qu'il fallait défendre l'Algérie française, maintenant on ne veut plus que je le fasse, je veux rejoindre l'OAS. Et un autre qui disait, tu étais résistant, les Algériens, j'estime que c'est évidemment un peuple occupé, on m'a demandé d'exécuter quelqu'un, je ne veux pas le faire, il a déserté. Donc deux gars avec une vraie
passionnant,
une vraie droiture. Et c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, je les ai rencontrés, je les ai convaincus de faire le film, ils ne voulaient plus le faire l'un d'entre eux. Et après on est devenus proches et on a déjeuné ensemble 10 fois. Non, le monde n'est pas manichéen. Et quand j'avais
très
dit à ce monsieur du FLN, celui qui avait déserté pour le FLN, je lui ai dit, j'ai un problème, c'est que les historiens me disent, vous pouvez pas faire ce film. Pourquoi ? Vous pouvez pas confondre quelqu'un qui a fait le bon choix, le FLN, et quelqu'un qui a défendu l'OAS. J'ai dit, mais c'est absurde. On a quand même le droit d'entendre les choses. Et le propre gars qui avait déserté pour le FLN m'a dit, pour dire ça, il faut n'avoir jamais bougé de Saint-Germain-des-Prés.
Oui.
Les gens de l'OAS ont fait des choses atroces, humainement, je peux comprendre. Et quand c'est celui de l'OAS, il m'a dit, à l'époque, si on avait parlé de ce type-là, du FLN, j'aurais dit, il faut l'exécuter. Maintenant, j'admire son courage. La valeur individuelle des hommes n'est pas forcément liée à leur cause. Pas forcément.
Ouais, mais je crois que Élie Denoy de Saint-Marc aurait été tout à fait d'accord avec vous.
Un modèle, quel homme extraordinaire.
Oui, enfin, Louis, continue.
Alexandre a une question.
Oui.
Pierre-Alexandre. Marc, je voulais savoir si les films dont vous parlez, c'était des commandes que les chaînes ou les entreprises vous faisaient, ou est-ce que ce sont des propositions avec lesquelles vous veniez et on vous disait oui ou non ?
Ah non, ce sont mes propres films, oui, absolument. Je pense qu'il faut avoir atteint un niveau de notoriété de type Ridley Scott pour qu'on vienne vers vous en disant « Soyez gentil de faire un film sur ce sujet-là ». Non, l'essentiel de mon activité, c'est de préparer des films qui n'aboutissent pas. En réalité, ça marche une fois sur 20. Ce qui est un peu rageant, c'est passionnant, parce qu'il y a des vraies recherches sur des sujets qui vous passionnent, mais 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Et maintenant, les chaînes veulent un dossier. Maintenant, avant, c'était 10 pages, maintenant, c'est 30. Et il faut dire à 12 minutes 45, il va se passer ça. Enfin, c'est devenu infernal. Mais non, ce sont mes idées. Donc, les quelques films que j'ai pu faire, j'ai la chance que ce soient mes idées, mais beaucoup n'ont pas abouti, j'espère encore, mais ça n'est jamais facile. Une chaîne comme Arte, ils mettent un an à vous répondre, par exemple.
Et donc, vous ne faites pas le film sans savoir s'il va pouvoir être diffusé, car c'est un investissement trop important.
Mais c'est même pas que c'est trop important, que c'est pas envisageable. Je ne comprends même pas ce que vous voulez dire. C'est pas possible. C'est une équipe. Vous n'avez pas architecte, vous n'allez pas commencer l'immeuble si vous n'avez pas de. Il faut payer les techniciens. Enfin, non, c'est même pas envisageable. On parle de budget.
Excusez-moi, mais je suis totalement naïf. Mais je me dis qu'à partir du moment où on est à peu près sûr de son thème et de son talent, on sait que forcément, dans un jour, dans un an, dans 10 ans, il y aura un diffuseur, une chaîne qui achètera parce que c'est beau, parce que c'est intéressant, etc.
Votre naïveté vous honore. Vous êtes resté très enfantin.
Ça fait 30 ans que je suis à Radio Courtoisie. Hein,
C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut que la chaîne. Mais la chaîne, elle reçoit. On croit qu'une bonne idée aboutit. Non, c'est être prétentieux. Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Il y a beaucoup. Sur le bureau du directeur des programmes d'une chaîne, il y a 50 projets, dont 45 sont très bien, aussi bien que le mien. Donc il faut, effectivement, ça aide si on le connaît bien, ça aide si on en a fait 3 ou 4. On peut dire, il sait faire le 5e, mais c'est jamais gagné. Donc il faut trouver le petit truc qui peut séduire. C'est souvent, ça ne marche pas. Moi, j'ai proposé depuis longtemps une série, je rêve encore de la faire, une série sur les grands assassinats politiques du XXe siècle. Mais vraiment, j'ai travaillé comme un fou. Il y a 20 dossiers de 20 pages, ça ne peut pas être plus près. Je suis prêt demain matin à le faire. Ça a traîné pendant un an et demi, jusqu'à ce qu'on finisse par me dire non, c'est compliqué, budget. Oui, 9 fois, ça ne marche pas, il faut l'accepter. C'est, encore une fois, je termine, je ne veux pas dire que je suis une victime. Le système est comme ça, il faut qu'ils choisissent. Et quand le choix ne tombe pas sur vous, on est déçu. Mais ce n'est pas forcément le fruit d'une cabale.
Mais je suis sûr qu'un thème comme celui-là, il sera fait un jour, parce qu'il coche les cases de la production audiovisuelle. Et alors justement, j'avais une question à ce propos, puisque les chaînes cherchent systématiquement des produits, finalement, qui leur permettront de faire de l'audience pour ensuite vendre un peu de temps de cerveau disponible pour Coca-Cola.
Pas tous. Arte n'est pas comme ça.
Non, mais si, Arte cherche aussi des programmes.
Oui, mais ils ne cherchent pas à vendre à Coca-Cola.
Il y a de la publicité sur Arte.
C'est Patrick Lelay qui avait dit ça à TF1.
Oui, je sais bien.
Ils n'ont pas toute la même logique.
D'accord, mais Arte, il y a de la publicité sur Arte ?
Je ne sais même plus maintenant, oui, mais la question n'est pas... Ils n'ont pas la même démarche, ils n'ont pas le même public.
Bien entendu, mais il y a un moment... Alors, si vous vivez des fonds publics, c'est très très bien, mais si vous ne vivez pas des fonds publics, vous avez quand même besoin, dans une chaîne qui vit sous le modèle économique capitaliste, vous avez besoin d'avoir d'équilibrer vos comptes. Donc, vous cherchez des émissions qui plaisent. Et donc, justement, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voyez... Parce que tout le monde n'a pas la science infuse. Est-ce que vous voyez... Est-ce que j'ai même une anecdote à ce sujet. Est-ce que vous voyez des émissions qui ne sont pas faites et qui, selon vous, marcheraient très très bien et feraient de très belles parts d'audience?
Je n'ai aucun avis là-dessus. La part d'audience, c'est un univers très particulier. Les succès sont parfois surprenants. Qui pouvait imaginer qu'un programme comme The Voice, allez, quand vous écrivez sur le papier, alors ils sont de dos pendant que le chanteur chante et ça va durer aussi longtemps que ça. Moi, je n'ai aucune compétence pour juger les programmes dits de flux, ce qu'on appelle programme de flux. Moi, je ne peux parler que des films documentaires, ce que je connais, qui n'est pas aussi marginal que ce qu'on croit. C'est un marché qui existe. Toutes les chaînes ont des programmes documentaires. Et le problème n'est pas vraiment pour elles de vendre la case cerveau libre à Coca-Cola. C'est pas la même démarche. Émission de flux, je connais plus, je ne sais plus répondre à ça. Je sais pas répondre à ça. Moi, ce n'est plus mon domaine.
Moi, j'ai une anecdote sur le sujet. Vous savez que je suis pas un grand spécialiste de l'audiovisuel.
J'ai vu ça.
Mais normalement, j'ai quand même vu qu'il y avait des émissions sur l'immobilier qui plaisaient énormément.
Oui, bah évidemment.
Et à un moment, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui est bizarre. On ne parle que de l'immobilier des personnes moyennes, donc pas des très pauvres et pas des très riches. Et au moins pour les très riches, ça, pour moi, ça avait le côté du luxe, de la paillette, de la découverte, du mystère, etc. On pouvait filmer de beaux endroits. Et donc, j'en ai parlé à une cousine germaine qui a fait toute sa carrière dans le cinéma aux États-Unis. Et je lui ai dit, écoute, elle s'appelle Sylvie, on pourra la retrouver. Écoute Sylvie, j'ai une idée, il faudrait faire une émission sur de l'immobilier de luxe, je suis sûr que ça marcherait, qu'est-ce que t'en penses? Bon, Hugues, c'est complètement nul, et puis, si c'était une bonne idée, ce serait déjà fait. Je lui ai dit, écoute, tu es plus compétente que moi, refermons le dossier. Et bien ça s'est créé, il y a émission qui s'est
L'agence.
Faite. L'agence. Exactement, l'agence, alors qui marche plus ou moins bien, mais ils refont les trucs. Donc je pense que la part d'audience, là aussi le financier qui est à la tête du média, doit considérer que ça fonctionne.
Bien sûr, ils ne sont pas philanthropes.
Revenons à une émission célèbre.
Oui.
La mort de Loana, qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui, Marc et Love Story?
La même chose qu'à tout le monde, je pense. C'est une tristesse sans nom, c'est une vie sacrifiée à pour essayer de retrouver cette étincelle de notoriété due au fait qu'on la voit prendre sa douche en 2001 et elle est devenue une espèce de star factice. Et elle n'avait pas la solité nerveuse, je suppose, je n'ai aucun droit, je ne la connais pas. Mais c'est tragique, oui, c'est tragique parce que c'est le miroir aux alouettes. Tous ces gens qui sont célébrés brièvement par la télé-réalité croient que... Et non, ça ne dure pas forcément. Le paradoxe, sans paraître, je l'espère, un vieux grincheux, c'est qu'avant, pour accéder, pour être diffusé sur un média, il fallait avoir montré certaines qualités, qui peuvent être d'ailleurs légères, qui peuvent être un battleur. Maintenant, c'est l'inverse. Vous apparaissez et du coup, vous avez du talent. C'est absurde. Absurde. Je me souviens que la première année de Love Story, 2001, je crois, j'étais au Festival de Cannes qui suivait pour faire je ne sais quel tournage, et il y avait des gens qui couraient après Loana et d'autres, alors qu'Alain Delon passait et que personne ne le regardait. C'est ce niveau-là, presque. Donc maintenant, c'est intéressant également en termes d'égo, parce que dans la télévision, tout le monde a un peu la tête gonflée, ça peut se comprendre. C'est que vous mettez un singe à l'antenne pendant 2 heures, c'est lui qui devient une vedette. Donc c'est comme ça, la caméra vous embellit.
C'est la puissance de l'image.
Donc cette malheureuse, je suppose, encore une fois, je parle avec beaucoup de prudence, à chercher à retrouver cette gloire éphémère qui était factice. Elle n'y est pas parvenue et c'est vraiment tragique. C'est le danger de tous ces jeunes de télé-réalité qui sont payés des fortunes pour dire « passe-moi le Nutella ». Bon, ils ne font rien, ils deviennent connus parce qu'ils sont éventuellement bien faits, athlétiques et un peu rigolos. Mais on ne fait pas une vie là-dessus, donc je plains ces jeunes gens. Oui.
Phénomène amplifié par les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Parce que là, maintenant, on n'a plus que quelques... Avant, il y avait quelques starlettes, si vous voulez. Aujourd'hui, la place qu'ont pris les réseaux sociaux font qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes qui se rêvent, ce qu'on appelle aujourd'hui influenceurs.
C'est désolant. Faites des choses, prouvez des choses. Oui, pardon.
Marc, pardon, sans transition, tu as fait un documentaire sur le mystère Mendes France. Est-ce que tu as réussi à le percer?
Non, et le simple fait, mon cher Louis, que vous disiez Mendes France me fait comprendre que vous ne l'aimez pas beaucoup. Mais vous avez tort si c'est le cas. Voilà. Non, je crois que vous avez tort. Ce serait un long sujet. Est-ce que j'ai réussi à le percer? Non. Pourquoi j'ai appelé ça le mystère Mendes France? D'une part, et je rejoins Hugues, c'est vrai que c'est un titre qui est un petit peu racoleur, il faut savoir le faire aussi parfois. Parce que je pense, et tant pis si certains ne sont pas d'accord avec moi, je pense que c'est un homme d'une parfaite droiture, d'une parfaite intégrité. On se demande pourquoi il est poursuivi d'autant d'animosité et pourquoi, s'il a été si bien, et moi je crois qu'il a été bien, son règne a été si court. C'est ça un peu le mystère.
Quatrième République d'une part. D'autre part, je suis assez d'accord avec vous, je ne vois pas grand-chose que l'on puisse reprocher à Mendes France, sauf peut-être d'avoir été tellement centriste que finalement des grandes décisions n'ont pas pu se prendre. Peut-être.
Laissez-moi raconter une chose sur l'homme. Laissez-moi vous raconter, Louis, sur Pierre Mendès, et non pas Mendès, France. Quand il était à une époque à la fois ministre des Affaires étrangères premier consul et premier président du Conseil. Et donc, il a décidé de travailler et vivre au Quai d'Orsay. Un jour, il reçoit ses fils, à qui il a promis de les emmener déjeuner, adolescents. Ses fils viennent, il y a tellement de travail qu'il n'a pas le temps de les emmener déjeuner. Il déjeune donc tous les trois dans le ministère. Et quand les fils s'en vont, Mendes France se dirige vers la comptabilité, je ne sais pas, et il dit « Mes fils ont déjeuné, il n'y a pas de raison que l'État paye pour ça, et il paye. »
Mais De Gaulle faisait pareil, il y avait un compteur spécifique pour les appartements privés à l'Élysée pour De Gaulle.
Et une deuxième anecdote sur lui qui va vous faire changer d'avis si vous pensez du mal de lui.
Je ne pense pas de mal de Mendes France.
Je parle de tout le monde. j'ai rencontré sa directrice de cabinet de l'époque, Leonora, une très femme très élégante, remarquable à tout point de vue, intellectuelle, brillante et jolie femme de l'époque. Et elle présente une liste de collaborateurs potentiels. Et Mendes France dit « Ne me parlez pas de ses diplômes. A-t-il le sens de l'honneur ?» Excusez-moi, mais c'est pas mal. Ah, c'est non. Plus quoi dire. Hein.
Il n'y a rien à dire.
Marc, il nous reste une dizaine de minutes.
Oui.
Ça va être un moment de plaisir pour toi et pour nous, sans doute, puisque dans la série Aventuriers et écrivains, tu as égrené un certain nombre de portraits marquants. Est-ce que tu peux en choisir un et nous en parler un peu plus? Parce que l'un de ces portraits, de l'un de ces grands écrivains, t'a particulièrement marqué.
J'ai eu la chance de faire des portraits d'écrivains que j'admirais par-dessus tout. Joseph Kessel, Ernest Hemingway, Romain Gary et d'autres. Ils étaient tous morts. J'en ai en revanche rencontré trois ou quatre qui étaient vivants. J'ai fait une émission passionnante avec Jean-François Deniaux, vous vous souvenez de lui, qui était un type assez admirable et en même temps parfois un peu hableur, mais passionnant. Je suis allé avec lui. Je suis allé avec lui à Sarajevo, qui était à l'époque occupé par, assiégé par les Serbes. Et le souvenir que j'ai de Jean-François Deniaux, on a eu un voyage formidable. On avait un voyage dans un des avions du GLAM, vous savez, c'est
oui, militaire.
Donc on était deux généraux qui allaient prendre leur fonction, Deniaux et moi, hôtesse, whisky, champagne. On arrive à Ancône, et là, on prend un transal, assis avec les casques lourds, on se pose à Sarajevo, on tourne deux, trois trucs. Et puis, à l'époque, vous vous souvenez qu'il y avait des pilotes français qui étaient prisonniers des Serbes, deux pilotes français, qui servaient de boucliers humains. On en a beaucoup passé, 95 ou 16, je crois. Et Deniaux, pendant deux jours, disparaît. Et au bout de deux jours, je dis « Mais où étiez-vous ?» Il me dit « Ah, peut-être, ça ne vous regarde pas. » Et le lendemain, j'apprends la libération des pilotes. Il me dit « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Laissant entendre que c'est lui qui avait négocié en sous-main. C'est peut-être vrai, mais c'était quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Et pour finir, Louis, autre homme vivant à l'époque, je ne sais pas si ça parle à tout le monde ici, c'est Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese aussi, que je considérais moi comme un écrivain, parce qu'il a un tel talent, une telle plume. Et on est allé chez lui à Lausanne. Une bibliothèque que je n'ai jamais vue de ma vie, j'ai une personne privée, mais des milliers de livres extraordinaires. Il me regardait, il me dit « Mince, ça vous plaît tous ces livres, venez, on va dans l'autre pièce ». Il y avait les mêmes en anglais. Et j'ai vécu avec ce type-là des choses merveilleuses. Sa biographie disait, il est de Venise, Hugo Pratt. À 17 ans, il guide les alliés dans les marais autour de Venise. Il dit, c'est pas vraiment pour ça, c'est juste que c'est physique, parce que j'ai préféré avancer avec les Anglais que reculer avec les Allemands. Il voulait toujours démythifier et dire, je ne suis pas un héros. Ça, c'est un personnage que j'admire. C'est facile de faire dire, j'ai toujours bien agi. Non, lui ne voulait pas de ça. Ça, c'est des souvenirs formidables. Je reste. Souvent, les tournages sont mieux que les films qu'on en fait, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Mais ça me manque un peu, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Le dernier film intéressant que j'ai fait, si j'ose le dire, vite fait, c'était un film sur la crise de 56, où dans le même week-end, je ne sais pas si nos amis sont assez spécialistes d'histoire, il y a les Français et les Anglais qui se jettent sur le canal de Suez pour le reprendre après qu'il ait été naturalisé. Voilà. Et le même week-end, c'est Budapest.
C'est Budapest
avec une insurrection dans Budapest que les Russes matent aux chars d'assaut.
Tout
en s'agitant à l'ONU en disant les Français menacent la paix du monde en Israël et en Égypte. Non, eux massacraient les gens. Et donc je suis allé, j'ai retrouvé des anciens combattants hongrois qui avaient lutté contre eux, des parachutistes français. Et on a monté le film vraiment comme ça. Midi et quart à Jérusalem, il se passe ça. Pendant ce temps, à midi et demi, il se passe ça à Budapest. Ça, c'était vraiment un bonheur. Ça s'appelait comment déjà 1956, quelques jours en novembre, je crois. Voilà, donc se repencher sur des périodes d'histoire comme ça, et sur la littérature, c'est les deux choses qui m'ont pour l'instant fait absolument fait vivre. J'ai envie de le refaire. Alors, en reparlant, ça m'excite.
Après avoir vécu tout ça, Marc, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que finalement, ça s'amoncelle, hein, toutes ces expériences multiples, variées. Tu es auteur, écrivain, journaliste, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire derrière? Est-ce que tu as des projets?
Ah, ce sont deux questions différentes. Des projets, oui, j'aimerais faire d'autres films. J'étais occupé par autre chose depuis, pour des raisons personnelles. Je voudrais en refaire d'autres, mais il faut repartir à l'assaut, appeler des chaînes. Alors, bonjour, c'est moi, c'est difficile. Il faudrait presque un agent pour faire ça. Moi, j'ai beaucoup de mal psychologiquement à faire ce genre de choses. C'est pourtant nécessaire. Mais ce que j'en fais, eh bien, je dirais, Louis, que je n'en fais rien de spécial. Je l'ai vécu, c'est tout. Je l'ai vécu. On ne fait pas les choses forcément pour qu'elles aient un sens et un écho dans le futur. Quand j'ai fait le film sur Joseph Kessel, par exemple, petit film très mal fait dont j'ai un peu honte, mais c'était mon idole. Et que je me suis dit, à l'époque sur Arte, ça avait fait 450 000 téléspectateurs, je me disais, c'est pas grand-chose, mais est-ce que cette année, il y a 450 000 personnes qui ont acheté un livre de Kessel? Non. Donc j'ai eu l'impression, pour les émissions sur la littérature, d'avoir rendu aux écrivains un peu ce qu'ils avaient fait pour moi en changeant ma vie, en m'ouvrant sur le monde. Et quant au film historique, analyser le passé, rendre hommage aux gens qui ont bien agi, c'est pour moi presque une mission. Donc je n'en fais rien de plus que ça. Je me dis, je le vis et j'espère avoir apporté une petite pierre à l'édifice d'une certaine forme de beauté, de courage, j'espère, très modestement.
Même si on peut l'imaginer, pourquoi cette passion pour Kessel ?
J'avais plutôt demandé qui n'est pas passionné par Kessel, qui l'a lu, n'est pas passionné par cet homme à la fois un littérateur formidable, un aventurier prenant des risques fous, sa vie, patriote français bien qu'il ne soit pas né français, pratiquant l'amitié comme un culte parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mieux que Kessel? Je ne suis pas sûr.
Eh bien, je pense qu'on arrive au bout de cette émission. On a réussi quand même à te contenir en une heure et demie. Hein, c'est un exploit. Bravo, Hugues.
Il nous reste...
La présence du président.
Mais il nous reste quelques minutes. La technique nous le confirme.
Ah, en général, elle me bouscule à ce moment-là. Donc, profite alors de ces...
Quand le chat n'est pas là, les souris dents.
Alors, c'est dommage. J'aurais voulu le poser un petit peu après pour laisser cette magnifique fin que vous avez faite tous les deux. Mais revenons peut-être à des choses un peu plus actuelles et prosaïques. Il y a de nombreuses commissions d'enquête sur l'audiovisuel. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je réponds sincèrement.
Ce n'est jamais un défaut puisque vous avez parlé d'honneur et de fidélité, de
courage.
Sais
que je pense que ça ne va pas vous plaire, je pense. Je pense que ça m'exaspère. J'ai travaillé beaucoup sur le service public.
Il n'y a pas que le service public qui est... Là, on va faire... Ce sont l'ensemble des patrons de chaîne qui sont auditionnés.
Vous avez raison.
Parce qu'en France, vous le savez, que vous soyez public ou privé, vous dépendez d'un système de régulation qui s'appelle l'ARCOM, dont nous dépendons aussi, cher Marc.
Examiner les choses, oui. Vérifier l'équité des transactions, oui, bien sûr. Mais je ne parle que du service public, pardonnez-moi, parce que c'est un peu marqué les esprits. J'ai été un membre subalterne.
Ces commissions n'ont a priori pas, vu ceux qui les ont lancées pour un certain nombre d'entre eux, été lancées uniquement contre le service public. C'est un euphémisme que de le dire.
Bah, c'est pourtant quand même ce dont on parle le plus.
C'est parce que là, vous avez celles qui sont auditionnées aujourd'hui qui sont le service public, mais là, vont être auditionnées d'autres. BFM est auditionné.
Laisse-le répondre, tu poses une question.
Je n'ai pas la compétence pour répondre économique. Est-ce que c'est justifié d'examiner les comptes d'une entreprise, surtout si c'est des comptes publics? Oui. Est-ce qu'il faut examiner et vérifier que la bienséance, l'équité, la justice, la correction soient respectées, qu'il n'y ait pas de propagation de fausses nouvelles, n'importe quoi pour le buzz? Oui, il faut le faire. En revanche, et pardonnez-moi de revenir, c'est ma petite marotte du moment, bien que je ne sois pas dans l'idéologie dominante, loin de là, et je l'ai souvent payé, je trouve un peu horripilant l'acharnement sur le service public consistant à dire que c'est forcément des rouges complètement... Non, ça n'est pas vrai, c'est excessif. Le mot service public est un beau mot. Alors, est-ce que des dérives ont eu lieu? C'est possible. Mais malgré tout, systématiquement, dire que ces gens-là représenteraient une sorte d'adversaire, je ne suis pas très d'accord avec ça, même si cet avis est celui que partagent beaucoup de gens de mon bord mental, mais j'ai un peu une autre vision des choses.
Merci beaucoup Marc, tel n'est pas non plus mon propos. On va vous laisser le dernier mot. On va remercier bien évidemment Pierre-Alexandre Bouclet d'avoir participé à l'émission, Louis Laboca également, et peut-être rappeler à nos auditeurs que donc nous recevions Marc Bessou, qui était à la fois producteur et animateur de radio, de télévision, et qui maintenant nous fait l'honneur d'être patron d'émission à Radio Courtoisie, et que j'espère nous retrouverons au plus haut des neiges du Kilimandjaro.
Adorable, vous me donnez quand même 10 secondes, bien que ça aurait été une très belle fin. 10 secondes pour dire, mes amis, lisez, voyez des films, voyagez, bougez, faites des choses, ne soyez pas esclaves des médias, lisez.
Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Venez d'entendre le libre journal des entrepreneurs dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 mars 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.